Ce soir, nous avons le grand plaisir, le grand honneur de recevoir Laurent James. Donc, d'ici à la fin de juillet, nous continuerons à avoir des conférences le dimanche. Pour le mois d'août, ce sera sans doute en pointillé. On n'est pas du tout sûr d'avoir des conférences. Beaucoup d'entre vous sont en vacances et des conférenciers par ailleurs. Voilà, donc nous répétons cet objectif avant tout culturel. Donc, je rappelle évidemment des règles de courtoisie, évidemment de ne pas céder à l'insulte et de formuler vos questions correctement. Sinon, nous réservons évidemment le droit. De bannir des personnes, comme ça c'est déjà produit. Donc voilà, je vais laisser la parole à Laurent James, que je présente encore en quelques mots avant de lui laisser le micro. C'est donc quelqu'un qui s'occupe du site parousia.fr. Donc parousia.fr, site sur lequel vous pouvez vous rendre, bien sûr, qui propose des textes en ligne, qui s'intéresse avant tout aux faits religieux, au rapport de l'homme à travers l'histoire, donc vision transhistorique de l'homme et réflexion sur la tradition, tradition primordiale, et ce qui permet d'aborder un certain nombre de thèmes extrêmement variés, donc vous pourrez le constater, notamment en passant par l'astrologie, et donc Laurent James, c'est quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à la convergence des traditions. Et à une lecture donc croisée selon des traditions variées, une lecture d'une même réalité à la fois de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Et je vais lui laisser la parole pour cette conférence sur les peuplements et royaumes eurasiens. Voilà. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à lui.
Merci beaucoup pour cette introduction. Moi, j'ai été ravi que votre équipe me contacte il y a de cela, je ne sais plus, un mois ou un mois et demi. Je ne suis pas très à l'aise hein, dans cet exercice parce que moi, j'ai vraiment l'habitude d'avoir des contacts physiques avec les gens pour discuter. Donc, si je commets des maladresses, j'espère que vous m'en pardonnerez. Je reprendrai juste une petite chose dans ta présentation, M. Fortas, qui était très bien, très honorable, mais en fait, je ne parle pas vraiment de convergence des traditions, parce que ça, justement, c'est un piège dans lequel tombent beaucoup d'ésotéristes qui sont ou bien mal habiles, ou bien mal intentionnés, parce que moi, je parle plutôt d'origine commune des traditions. C'est-à-dire que je m'en expliquerai à la fin de cet exposé, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est la moindre notion de syncrétisme. Donc, en fait, je ne veux rien faire converger du tout. Ça, c'est très, très, très important. Il faut vraiment que chacun conserve son identité, c'est-à-dire en fait la spiritualité qui découle directement de l'axe dans lequel il est né. Évidemment, un changement de religion peut être possible, mais ça, si vous voulez, on en parlera après. Mais c'est vraiment l'origine commune, si vous voulez, des traditions, et c'est une origine qui n'est pas statique, mais dynamique, c'est-à-dire qui s'explique en termes aussi bien principiels qu'en termes historiques. Alors, cette toute petite mise au point effectuée, je vais me lancer dans cet exposé donc, qui se focalisera sur le royaume eurasien. En fait, c'est la partie, on va dire, peut-être la plus politique, voire même la plus directement politique de ma pensée et de ceux auxquels je me réfère. Alors, j'ai intitulé cette intervention Fondements et perspectives du royaume eurasien. Je vous donne de suite on va dire l'articulation. Oui, je vous donne de suite l'articulation. Je vais commencer par faire un tout petit peu d'histoire sans être lourd ni pesant. Cette fois-ci, je ne vais pas remonter aussi loin que je l'ai fait lorsque j'étais à Rennes. Mais enfin, je vais expliquer que le royaume eurasien a déjà existé. Donc ce n'est pas un délire, si vous voulez, de jeune homme des années 2011, perclus de fausses sciences et emberlificoté dans un satanisme régnant qui se prend à délirer et à broder. Le royaume eurasien, ou en tout cas l'Eurasie, traditionnaliste et hiérarchique a déjà existé, c'est ce que je tenterai de vous démontrer. Ensuite, on verra peut-être un peu rapidement, la deuxième partie sera la plus rapide, comment est-ce qu'on est passé de la Gaule à la France, puis, je l'espère, à l'Eurasie. Puis, dans un troisième terme, je vais tenter de m'expliquer un peu plus précisément sur ce que j'entends par le royaume eurasien, cette fois-ci celui que j'attends et que j'essaye de faire advenir. Bien sûr, je ne suis pas seul, puisqu'il y a des maîtres, des gens qui m'ont précédé et des gens aussi qui vivent en même temps que moi aujourd'hui. Alors, donc je commencerai par cette première partie, si vous voulez. Si vous regardez si vous regardez un axe historique de ces, on va dire, de ces 10 000 dernières années, vous avez, je remonte pas avant le Mésolithique. Donc le Mésolithique, hein, je vous resitue un petit peu. Vous avez le Paléolithique supérieur qui s'inscrit donc dont la durée et qui se termine après en l'an 30 000, on va dire, en 35 000 avant Jésus-Christ. Donc c'est l'époque où l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme de Cro-Magnon en termes scientifiques, s'installe définitivement en Eurasie. Je remonte pas avant, mais on sait que le Néandertalien, venant de ce que la tradition appelle l'Hyperborée, habitait en Eurasie depuis déjà quelques centaines de milliers d'années, c'est-à-dire depuis au moins 250 000 ans. Et on a cette tragédie, puisque l'histoire historique est l'histoire humaine, pardon, n'est tissée que de tragédies, de tragédies qui, un drame qui ne peut pas se résoudre, c'est-à-dire un drame cyclique, c'est une tragédie. Donc nous avons cette rencontre tragédique entre l'homme moderne venu du Proche-Orient et donc le Néandertalien. Et comme vous le savez, bien sûr, le Néandertalien s'est peu à peu éteint tout en laissant quelques traces de ses gènes. Ça, c'est vu d'un point de vue matérialiste. Mais moi, je dirais quelques traces de sa métaphysique. Ça, c'est vu du point de vue traditionnaliste en nous. Qu'ensuite, donc, une nouvelle ère naît et j'en viens à l'an moins 20 000 à peu près, moins 18 000, c'est-à-dire l'ère de la fin de la dernière glaciation, donc la glaciation de Wurm. Que se passe-t-il? Donc, c'est ce que les scientifiques appellent le mésolithique et qui correspond exactement à l'émergence de l'âge d'airain pour les traditionalistes, hein, c'est-à-dire en moins 18 000, hein, je me répète. Donc, c'est la fin de la glaciation de Wurm. Nous avons les forêts, par exemple, en Europe, qui remplacent les steppes. Nous avons une renaissance du sanglier. Le sanglier, c'est très important. J'en reparlerai à une ou deux reprises au cours de ma conférence, puisque, du point de vue traditionnaliste, vous savez, chaque manvantara, c'est-à-dire une durée humaine de 62 000 ans à peu près, 64 000 ans, 64 800 ans pour être précis, excusez-moi, chaque manvantara est placé sous l'égide on va dire, d'un manu à tête d'animal, et c'est le sanglier qui préside aux destinées de notre Manvantara actuel. Donc la renaissance du sanglier s'effectue au Mésolithique, et vous avez donc on enterrait nos morts depuis très 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 longtemps déjà, hein, donc il n'y a aucune nouveauté au niveau du fait qu'on enterre nos morts. Les Néandertaliens les enterraient déjà, même avec un petit peu de parure. Mais pour la première fois, nous avons ici des tombes qui sont remplies de morts, qui sont remplies, c'est-à-dire il peut y en avoir plusieurs, des morts repliés sur eux-mêmes ou en position assise, et ces tombes sont recouvertes d'ocre rouge. Donc ça, c'est très important, puisque à partir du néolithique, qui est l'époque suivante, excusez-moi, le néolithique qui correspond, lui, à ce que les traditionalistes appellent l'âge du fer, enfin, disons, le néolithique. Très concrètement, il commence avant l'âge du fer, c'est-à-dire en moins 10 800, hein, c'est l'âge où Platon pensait que. Enfin, c'est l'époque à laquelle Platon a signé la fin de l'Atlantide. Donc le néolithique commence à cette époque-là, avec la sédentarisation des peuples, bien sûr l'arrivée de la pierre polie, c'est-à-dire de nouveaux outils, et vous avez une amélioration, si on peut dire, ou plutôt une évolution des tombes. Alors que les tombes dans l'époque précédente étaient surmontées, comme je vous l'ai dit, non, je ne vous l'ai pas dit, excusez-moi, étaient surmontées d'une dalle de pierre et d'un tumulus, ces tombes se sont enrichies et ont progressivement donné lieu à l'apparition de ces fameux mégalithes. Et on vérifie qu'à l'époque à peu près 4 700 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'apogée, si vous voulez, du néolithique, et qui là, en revanche, correspond à l'arrivée de l'âge de fer, donc le dernier âge, hein, dans lequel nous vivons tous. Nous avons à cette époque-là une unité culturelle au niveau donc Eurasie, hein, c'est-à-dire on va dire de la Bretagne jusqu'à la Mongolie, voire même au-delà, jusqu'à l'Altaï, une unité culturelle qui se fait avant tout par l'ornement de la tombe, c'est-à-dire avant tout par la mort. Et on sait du point de vue traditionnaliste que Plus l'histoire humaine avance, plus l'homme est obsédé, si vous voulez, par la mort, et ça jusqu'au libéralisme, puisqu'au libéralisme, une des définitions du libéralisme, c'est justement le mépris de la mort, voire son ignorance, c'est plus l'ignorance que le mépris d'ailleurs, mais jusqu'à l'avènement du libéralisme, la mort occupe une place de plus en plus importante comment dire, pour montrer, si vous voulez, qu'il y a un manque entre l'homme et le cosmos. Hein, c'est-à-dire que je ne dis pas que la mort n'existait pas avant, je dis que plus l'histoire avance jusqu'au point culminant du néolithique, plus on voit effectivement des tombeaux de plus en plus beaux, de plus en plus structurés, et plus, à mon sens, cela signifie que l'homme est en manque de relation directe avec Dieu, puisque c'est dans la mort et par la mort qu'il comble ce manque en tentant de le réaliser par l'esthétique. Donc, pour ce qui nous intéresse au niveau du royaume eurasien, on a une unité culturelle entre deux populations néolithiques qui viennent de l'Est, qui viennent du Proche-Orient. L'une est venue par la Méditerranée et l'autre par le Danube. Nous avons une unité culturelle entre ces deux populations-là et les populations locales qui, elles, donc, viennent du Mésolithique. Dans les tombes, nous avons les corps qui sont de plus en plus souvent orientés, c'est-à-dire tournés vers l'Orient, c'est-à-dire pour affirmer leur lien avec le passé, puisque je me répète, les populations néolithiques venaient toutes du Proche-Orient. Ici, nous sommes donc dans ce que Pierre Gordon, le très grand ésotériste Pierre Gordon, appelait l'Église du néolithique dans son ouvrage Le sacerdoce à travers les âges. Nous avons ici, de manière concomitante, l'avènement du culte du taureau, à partir, donc je l'ai dit, du début de l'âge de fer, qui se trouve. Excusez-moi, j'ai une petite quinte de toux. Donc je disais le culte du taureau qui s'illustre aussi bien à travers donc des figures taurines à travers lesquelles on adore Dieu qu'à travers la domestication du bœuf. Donc on est passé, si vous voulez, de la déesse mère protectrice qui était très présente dans les sociétés mésolithiques, voire même paléolithiques. Hein, je vous rappelle l'existence de la Vénus de Willendorf, de la Vénus de Lespug, qui relèvent de ce que l'on appelle l'idéal féminin du paléolithique. Nous sommes passés de cet idéal féminin-là, de société certainement matrilinéaire, à un idéal qui est plutôt viril, puisque apparemment ces populations venues du néolithique étaient plutôt des populations nomades, fondées sur l'instinct guerrier. Et puis là, nous avons la floraison de ce mégalithisme funéraire. Donc là, je ne vais pas vous faire une liste, vous la connaissez peut-être toutes, hein, mégalithisme funéraire à couloir, ce que l'on appelle les dolmens, toutes ces pierres d'essai, les menhirs qui ponctuent, si vous voulez, la chair vivante de l'Eurasie en un arc de cercle qui est absolument émouvant pour toute personne vivante aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ni pour un banquier, ni pour un journaliste, ni pour un démocratico-parlementaire. Une personne vivante aujourd'hui ne peut, à mon sens, que pleurer d'émotion, hein, devant cette articulation dynamique de pierres levées, de Carnac. Je pense au serpent de la Bretellière en Maine-et-Loire que je ne connais que depuis peu. Les statues menhirs que vous avez aussi bien en Sardaigne et en Corse. Les stèles que vous avez en Mongolie. Les céramiques, statuettes, évidemment Stonehenge. Les cromlechs, etc. Au Pays Basque, etc. D'ailleurs, si vous voulez, Hésiode, par exemple, quand il parle de la succession des époques humaines, dit à un moment qu'il y avait une ère de géants. Je relisais, on dit souvent je relisais pour faire snob, mais là vraiment c'est une relecture, je relisais le Pantagruel cet après-midi de Rabelais, hein, le chapitre 5, dans lequel Rabelais dit concrètement que c'est la race de Gargantua. Qui a comment dire qui a érigé la pierre levée de Ligugé, il me semble, aux alentours de Poitiers. Donc on a cette mémoire minérale qui est très ancrée en nous, et j'en reviendrai à la toute fin, c'est justement comme Dominique de Roux le disait, une nouvelle assomption solaire de la pierre dont nous avons besoin aujourd'hui en ces temps de la fin. En 2000 avant Jésus-Christ, c'est l'âge de bronze pour les historiens. Pour nous traditionnalistes, c'est l'ère du bélier. Donc je ne reviens pas sur l'avènement du judaïsme, puisque ce n'est pas de ça vraiment dont je veux parler aujourd'hui. C'est plutôt l'avènement historique de la trifonctionnalité en Eurasie. C'est-à-dire qu'on a pour la première fois comment dire, des signes très clairs du fait que la société commence à se stratifier, à se hiérarchiser. Et là, nous avons le mythe hésiodique qui justifie justement cette distinction sociale qui commence à émerger. Alors cette distinction sociale, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas due à des personnes qui veulent conserver le pouvoir à des rois ou à des guerriers, tout en méprisant leur peuple. C'est bien au contraire parce que, en même temps que vous avez l'avènement d'une trifonctionnalité dans ces pays-là, en fait, vous avez l'émergence du commerce. Et donc, c'est la perte de substance, si vous voulez, du peuple qui rend obligatoire l'avènement d'une stratification de la société. Je vous lis très rapidement Platon dans La République. Vous qui faites partie de la cité, vous êtes tous frères, mais le dieu, en modelant ceux d'entre vous qui sont aptes à gouverner, à mêler de l'or à leur genèse, c'est la raison pour laquelle ils sont les plus précieux. Donc ceux qui possèdent de l'or dans leur substance, ce sont les prêtres, si vous voulez. Pour ceux qui sont aptes à devenir auxiliaires, il a mêlé de l'argent. Et pour ceux qui seront le reste des cultivateurs et des artisans, il a mêlé du fer et du bronze. Donc nous avons l'avènement de cette hiérarchisation à cause du fait que certaines personnes, plus faibles que d'autres, perdent de leur substance, et ça correspond donc tout à fait à l'ère du bélier. Et en même temps, vous avez également le culte du soleil qui émerge dans toute l'Eurasie, qui s'illustre notamment en Égypte par le culte du soleil voulu par Akhénaton. En fait, c'est un culte du soleil qui, pour le coup, relève de la monolâtrie, donc n'est pas traditionnaliste. Mais en revanche, au Danemark, par exemple, vous connaissez le chariot de Trondheim, où vous avez le disque solaire qui est tiré par un cheval, et qui est ici le référent des religions scandinaves, qui elles sont authentiquement traditionnalistes. Et puis j'en viens enfin à l'époque 1000 avant Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, on est depuis quelques milliers d'années dans une unification culturelle de l'Eurasie. Permettez-moi de reciter Marcel Granet, orientaliste que j'ai cité, il me semble, à Rennes, qui disait que des côtes de l'Islande jusqu'aux côtes de la Mandchourie, il y avait une seule civilisation. Et puis, bien sûr, vous avez l'avènement des Celtes entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ, qui vont à nouveau, si vous voulez, proposer une réunification, enfin, oui, une réunification de l'Europe en utilisant d'autres termes, qui vont intensifier la trifonctionnalité eurasienne, notamment en Gaule, bien sûr, puisque c'est en Gaule que la religion très hiérarchique des druides est devenue, enfin s'est ancrée de manière la plus déterminante. Permettez-moi encore une fois de vous faire une petite lecture. C'est un texte absolument magnifique de Jean Faure qui se trouve dans son livre La France mystique, que je vous recommande, et qui nous parle des racines de la France. Dans leur mouvement migratoire et leur métissage partiel avec les autres races, les descendants des Hyperboréens ont au passage fusionné avec les descendants de l'Atlantide engloutie il y a environ 11 000 ans. Je n'ai pas parlé, je ne parlerai pas de l'Atlantide aujourd'hui, c'est un autre sujet. Un grand reflux est-ouest s'est produit ensuite, s'est poursuivi jusqu'au seuil de notre ère. Selon une tradition millénaire, un homme prédestiné, Ugadarn, guida vers ce qui devait devenir l'Europe occidentale les tribus Kimri. Donc je passe là, ici cite tous les Celtes et les Gaulois qui viennent chez nous. Ces tribus celtes arrivèrent sur le territoire de la Gaule aux environs du 5e siècle avant Jésus-Christ et se fondirent dans les populations antérieures, hein, donc celles du néolithique, ou plutôt dans ce qu'il en restait. Ces Gaëls descendaient presque directement des Hyperboréens et peuplaient de façon très clairsemée donc l'Eurasie. Mais il existait encore sur le territoire de la Gaule le reste d'une autre ethnie qui ne nous a laissé aucune trace directe, c'est celle dont je parlais à l'instant, excusez-moi, les gens du néolithique, hein, qui ont dressé les mégalithes partout, qui étaient les pré-celtes et au sujet de laquelle on ne peut qu'interroger l'archéologie du néolithique, du chalcolithique, etc. Toutes les histoires de Gargantua, de pierres levées, de menhirs et de dolmens appartiennent évidemment à un lointain passé mythique qui faisait déjà partie du surconscient des Gaulois. Voilà, donc ça c'est un court texte de Jean Faure, extrait de la France mystique. J'en arrive à la deuxième partie, à la Gaule, où j'essaierai de vous montrer de manière un peu plus courte que dans la première partie. La façon dont la Gaule s'est transformée, la façon dont la Gaule s'est muée, de manière, si vous voulez, contre-traditionnelle. Parce que là, c'est une idée que j'ai moi et qui me distingue souvent de la plupart des traditionalistes, voire même de la plupart des nationalistes. Mais là, c'est tout à fait normal puisque, je le répète encore une fois, je ne suis pas nationaliste. J'essaye de, si vous voulez, de concilier deux phrases. Donné par des écrivains, puisque moi j'essaie toujours de partir aujourd'hui de la littérature pour parvenir à un aspect de la vérité. J'essaie de concilier ces deux phrases, celle de Dominique de Roux, Depuis les origines, la France n'a tenu que par le secret, et celui de Giovanni Papini, hein, ancien futuriste, qui, vous le savez, a écrit une histoire de Jésus absolument remarquable, qui a été réédité il n'y a pas longtemps par l'Âge d'Homme, il me semble, et qui a écrit dans son livre sur le diable. On a copieusement écrit depuis Jules César sur la douce France, mais personne, je crois, n'a fait sur ce pays l'étrange découverte que j'énonce ici. La France est la terre promise du satanisme. Alors, sans rentrer dans des considérations absolument délirantes, j'aimerais ici bien spécifier ce que ça signifie. D'abord, rappeler quelques historiens comme Ferdinand Lotte, comme Camille Julien. Des historiens assez anciens qui ont jadis écrit la manière dont la Gaule s'est transformée en France et surtout la manière dont la France s'est construite contre la Gaule. Mon idée, c'est que, contrairement à ce que disent certains royalistes qui estiment que la France est née en 496 avec le baptême de Clovis, ce qui pour moi est une absurdité, c'est pour moi ça relève de la même absurdité que lorsqu'un républicain dit que la France est née en 1789. Ou qu'un 68ard dit qu'elle est née en mai 68, ou qu'un identitaire, j'en ai entendu un il y a 6 mois, qui a dit que la France est née pendant la guerre de 14-18. La France ne dépend pas des idéologies. La France est bien antérieure à 496. Et une fois pour toutes, quand même, que cela soit clair, et il faudrait, je pense, le répéter jusqu'à se faire saigner du nez, les Celtes n'ont pas attendu les Francs pour être chrétiens. Estimer que la France est née en 496, c'est raturer Vercingétorix, c'est raturer les Celtes. Moi, je suis un Celte chrétien et je ne veux pas raturer, si vous voulez, mes ancêtres directs. Alors, la Gaule a été couronnée par le christianisme avant que Clovis ne soit couronné, ou même Mérovée, mais enfin, que Clovis ne soit directement couronné par Saint-Rémy. Et mon idée, c'est que la France l'a trahi. A trahi ce couronnement. En fait, ce n'est pas mon idée, hein. Vous lisez le Règne de la Quantité et les Signes des Temps de René Guénon, et il vous décrit ceci de manière beaucoup plus détaillée que moi. C'est un livre absolument fondamental. Il vous explique pourquoi, enfin plutôt comment la France a mis en place les premiers feux de la contre-tradition. Je ne vais pas reparler de ça, on va certainement parler tout à l'heure. Hein, la prise en main de la monnaie par le roi, par Philippe le Bel, alors que la monnaie appartient en principe à l'Église. C'était les druides, hein, qui contrôlaient les symboles écrits sur l'argent, sur les pièces de monnaie. Et mon idée, c'est que de manière, si vous voulez, futuriste, j'emploie le terme exprès, à son tour, après que la France ait trahi le couronnement de la Gaule, à son tour, la France sera trahie par la Gaule, qui fécondera l'Eurasie. Donc mon idée, c'est que de faire appel, si vous voulez, à cette Eurasie dont nous sommes tous porteurs dans nos vraiment au sein de nos chairs vivantes. Hein. Et c'est cette Gaule-là, c'est-à-dire le pays profond. Je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Jean-Paul Bourre, que je n'ai jamais contacté, avec qui je n'ai jamais discuté, mais qui pour moi est le Gaulois typique, si vous voulez, qui me fait presque pleurer d'amour, hein, quand il parle. Donc c'est la Gaule qui saura retrouver ses fondements afin de féconder cette Eurasie dont nous sommes tous issus. En revanche, c'est probablement en France que ce renversement de la fin aura lieu, parce que la France, et avant elle la Gaule, est un pays élu. Pourquoi est-ce que Papini disait que la France était la terre promise du satanisme? Parce que bien sûr, elle s'inscrit de façon visuelle, symbolique, et vous savez que le symbole, c'est absolument fondamental, elle s'inscrit dans le sceau de Salomon, et ce, depuis l'avènement de Clovis. Permettez-moi d'avancer rapidement dans les siècles. Il y a eu des parenthèses enchantées dans l'histoire de la France. Je suis tout sauf bipolaire parce que je reconnais évidemment une grandeur aux francs. Je crois, moi, à l'assomption de Clovis par le Paraclet et par la Sainte Ampoule en 496. Donc je n'ai aucun problème avec ça. Je dis juste que ce cycle d'événements-là n'a fait que précipiter, si vous voulez, la contre-tradition. N'oubliez pas que la France est le premier pays à avoir, par exemple, en 1810, foncé tête baissée dans le capitalisme de la machine, après l'invention de la machine qui s'est faite dans des pays anglo-saxons par James Watt, mais le capitalisme de la machine. Bon, y a une très sérieuse concurrence entre l'Angleterre et la France, hein, dans tous ces niveaux-là. Mais vous savez comme moi, bien sûr, que l'Angleterre est une création de la France. J'en arrive à Joseph de Maistre. Lui avait compris tout ça. Joseph de Maistre, il parlait en assistant à la Révolution française. Il n'était pas contre-révolutionnaire, si vous voulez, dans le sens où Louis de Bonald l'était, parce que Joseph de Maistre, étant franc-maçon, alors je précise bien entendu qu'il existait encore à l'époque plusieurs franc-maçonneries, et celle à laquelle appartenait, la loge, pardon, à laquelle appartenait Joseph de Maistre, était une franc-maçonnerie opérative et non pas spéculative. Donc évidemment, c'était une des dernières loges, on va dire, à peu près pertinentes de la franc-maçonnerie, laquelle s'est complètement éteinte par la suite. Joseph de Maistre parlait de l'avènement d'un au-delà de l'histoire. Il écrit dans les soirées de Saint-Pétersbourg, pour moi c'est loin d'être un hasard, c'est même particulièrement jouissif que ça se passe à Saint-Pétersbourg, ce genre de discussion. Alors, je vous lis cette phrase, elle est extraordinaire. Peut-être que la plupart d'entre vous la connaissent, le moindre mot compte. Joseph de Maistre, donc catholique, fondamental, catholique, apostolique et romain. Hein. Il faut nous tenir prêts pour un événement immense, dans l'ordre divin vers lequel nous marchons à une vitesse accélérée, qui doit frapper tous les observateurs. Le christianisme sera rajeuni d'une manière extraordinaire. Il ne s'agit pas d'une modernisation de l'Église, mais d'une forme nouvelle de la religion éternelle, qui sera au christianisme actuel ce que celui-ci est au judaïsme. Donc voilà Joseph de Maistre qui prévoit, si vous voulez, avec une fulguration spirituelle qui est sienne et qui ne peut venir que de la part d'un traditionaliste, puisque c'était un traditionaliste catholique, donc il savait que l'histoire était basée sur la notion de cycle, qui prévoyait donc l'avènement futur d'un au-delà de l'histoire. En 1830, comme vous le savez, on a le dernier roi de droit divin, hein, à savoir Charles X. Après, c'est la fin. Et comme par hasard, que se passe-t-il à partir de 1830, c'est-à-dire, si vous voulez, la fin véritable et nette et absolue de la royauté de droit divin en France, puisqu'après on a Louis-Philippe, et comme vous le savez tous, c'est le roi des Français et non pas de la France, en plus descendant de Philippe Égalité. Nous avons à partir de 1830 le début des apparitions eschatologiques de la Vierge. Si on a des questions à ce sujet-là, je me ferai un plaisir de développer ce point. Pourquoi ces apparitions eschatologiques sont si importantes, de la Salette à Medjugorje, hein, pour aller très vite, et pourquoi est-ce que la Vierge entre en résonance avec l'Apocalypse de Jean, et bien sûr les homélies de Marie-Madeleine professées à partir de l'an 43 à Marseille et en Provence. Tout ça est lié directement, mais ce n'est pas véritablement le sujet de ce qui me tient à cœur aujourd'hui. Je reviens à Jean Faure, lui aussi évidemment en tant que traditionnaliste, après avoir constaté qu'il y a eu 69 rois dans l'histoire de France, pensait toujours à l'avènement d'un au-delà de l'histoire, et il pensait que le 70e roi était à venir, et il l'écrit, il ne sera pas uniquement le roi de France. Voilà. Voilà ce qui est intéressant. Nous arrivons au concept de la monarchie universelle, nous arrivons au concept du retour du roi. Le roi occulté, hein, le retour d'Arthur, transporté par les fées sur l'île d'Avalon. Pour ceux qui ont un peu de connaissances ésotériques chrétiennes, je vous rappelle qu'Avalon, c'est l'endroit où disparaît le Graal, transporté par Joseph d'Arimathie lorsqu'il a débarqué avec Sainte Marie-Madeleine en Provence. Joseph d'Arimathie ayant recueilli le Graal, bien sûr, dans son jardin. Donc, sur un plan tout à fait symbolique, nous avons le retour de ce roi qui dort sur l'île d'Avalon. Alors, le mal s'empire, bien sûr. Aujourd'hui, par rapport à l'an 1830, c'est évidemment de pire en pire, c'est que l'homme est de plus en plus mauvais. Et pourquoi est-ce qu'il est de plus en plus mauvais? Parce qu'il est de plus en plus rejoint par le mal, de plus en plus rejoint par Satan. Ça, c'est, vous savez, bien sûr, c'est l'inverse absolu de la doxa évolutionniste. C'est-à-dire que l'homme s'éloigne de plus en plus de l'essence pour se rapprocher de plus en plus de sa substance, et plus il rejoint cette substance-là, plus cette substance se divise contre elle-même. Puisque le principe d'individuation, c'est un principe qui est mauvais par excellence. Et le principe d'individuation débouche toujours sur la maximalisation de l'individuation, c'est-à-dire que plus vous êtes seul, plus vous serez divisé contre vous-même. Et là, si vous me permettez de faire une minute, non pas de logis, le mot est un peu fort et puis j'en serais bien incapable, mais d'usiter un petit peu de concept théologien. Vous savez que donc la dynamique de l'unité, c'est-à-dire du principe, c'est-à-dire de Dieu, c'est une dynamique qui repose sur trois termes, c'est-à-dire la manance, la création, ensuite la procession, le cycle, et ensuite la conversion, le retour à l'unité. Donc ça, c'est une dynamique que l'on retrouve absolument chez toutes les traditions, y compris bien sûr les trois dernières traditions monothéistes. Vous avez ça aussi bien chez Maître Eckhart que chez Ibn Arabi, hein. Qu'est-ce que Dieu? Bien sûr, la question est nulle et non avenue. Mais enfin, on peut, entre mille manières différentes, on peut toucher de l'entendement le concept de la divinité en disant que le devenir cyclique de cette manifestation, lorsqu'elle se contracte infiniment sur elle-même, nous arrivons ici à toucher à ce qu'on appelle donc l'ipséité, c'est-à-dire Dieu lui-même, hein, ce que Rabelais appelle le souverain plasmateur. Donc, Dieu, c'est une contraction infinie de ce cycle sur lui-même. Mais néanmoins, la manifestation elle-même étant constituée de cycles. Donc, je reviens sur cycle, celui dans lequel l'homme vit aujourd'hui, donc le cycle métaphysique dans lequel enfin plutôt métahistorique, excusez-moi, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, avant la conversion, c'est-à-dire le retour à l'unité primordiale, ce que tout homme de bien appelle de ses voeux, c'est ce que nous appelons la parousie. C'est ce que nous essayons de faire advenir avec la mise en place terrestre du royaume eurasien, pardon. Eh bien, il existe deux éloignements tout à fait différents du principe de l'unité. C'est-à-dire, il y a deux manières différentes de s'éloigner du souffle primordial, de l'unité primordiale. La première manière, c'est celle qui est inscrite dans le plan divin. Hein, je reviens à Joseph de Metz quand il disait que la Révolution française était inscrite dans les desseins de Dieu, c'était de ça dont il parlait. C'est-à-dire que vous avez un éloignement qui permet à la fin, qui permet une prise de conscience et qui permet à la fin le retour et la manifestation du principe. Et puis vous avez un deuxième éloignement qui est celui qui accentue le mal, c'est-à-dire la séparation maximale. Eh bien, j'en arrive ici à une chose qui, justement, j'en arrive à la troisième partie, la partie qui va expliquer les fondements, enfin plutôt les perspectives du royaume eurasien. Voilà, le concept fondamental, c'est que le mal, aujourd'hui, étant universel, il faut une réponse universelle. Le mal, aujourd'hui, étant la séparation maximale des individus, les uns contre eux-mêmes, cette séparation étant rentable au plus haut point, nous attendons bientôt l'époque où la folie ou la schizophrénie sera elle-même rentable. C'est déjà le cas, vous allez me dire, hein, grâce aux travaux de l'INRA et des médecins de tout poil. Donc, lorsque le mal sera rentabilisé au maximum, le système ne pourra pas aller plus loin. C'est-à-dire que le système va dans le sens de la désindividualisation maximale. Après être passé par l'émergence de l'individu contre les communautés organisées, les communautés verticales et les communautés transcendantales, famille, communauté de travail, communauté organique, communauté religieuse, bien entendu, après avoir combattu ces communautés-là, ça a été analysé aussi bien par Drieu-La Rochelle que par Pasolini, eh bien, le mal s'est ensuite attaqué à l'individu lui-même. Hein, suivant le principe dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, plus vous avez individuation et plus vous avez division. C'est ce que Guénon modélisé par, si vous voulez, la succession, rationalisation, matérialisation, individualisation et dissolution. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez quelques forces planétaires, vous les connaissez toutes, bien sûr, ici, c'est-à-dire le messianisme judéo-protestant, le monde bancaire, le monde anti-artistique, puisque l'art, bien sûr, c'est entre autres ce qui permet de renouer avec Dieu, ou plutôt de renouer avec la nostalgie de Dieu. Le monde aujourd'hui fait tout, non plus pour annuler Dieu, puisque ça, c'est fait, mais pour annuler la nostalgie de Dieu. Donc, en retour, ce qu'il faut, c'est une universalité transcendantale. Je n'invente rien. Vous savez ce que ça signifie. Vous savez ce que signifie le mot catholique, bien sûr. C'est pour ça que je m'oppose un petit peu parfois à des gens tout respect gardé, à des gens comme Pierre Hilard qui voient dans la source de, si vous voulez, qui voient dans l'universalité, quelle qu'elle soit, que ça soit celle de d'Alexandre le Grand ou celle de Rothschild, ils ne voient aucune différence entre les deux. Pour moi, c'est une erreur. Pierre Hilard va même jusqu'à dire que Ahmadinejad est fondamentalement mauvais, que c'est un, enfin, qui fait partie du mal, puisque à son tour, il veut étendre le chiisme sur toute la planète. Excusez-moi, mais il y a deux types d'universalisme, deux types de mouvements planétaires. Il y en a un qui courbe la nuque, qui fait courber la nuque, et qui baisser les yeux vers le bas et qui laisse monter en soi toutes les forces mauvaises telluriques, c'est-à-dire proprement luciférienne. Et puis vous avez un universalisme transcendantal dont Guénon a beaucoup parlé dans son livre Le Roi du Monde, et qui lui, au contraire, fait lever les yeux vers le ciel, fait lever les yeux vers la voûte céleste, et tend à donner des béquilles pour construire quelque chose donc d'universel entre hommes. Si vous voulez, de bonne volonté. Alors, je m'expliquerai, hein, de bonne volonté, je ne m'inscris pas dans la figure de Raymond Roland. Je ne suis pas humaniste, bien entendu, hein. L'humanisme est une erreur importante. Avant d'arriver à la troisième partie, laissez-moi juste vous parler de. J'ai trouvé une citation tout à l'heure de Pie XII. Il faut de temps à autre parler de Pie XII. C'était un saint très, pardon, un pape très important. En 1927, qu'a-t-il dit, ce bon Pie XII? Le conflit entre le Christ et l'Antéchrist prend des formes gigantesques. Voilà, donc c'est-à-dire que non seulement l'Antéchrist prend une forme gigantesque, mais le conflit entre le Christ, entre l'Antéchrist et le Christ prend une forme gigantesque. Ça, c'est très important. Alors, j'en arrive, ben, je suis un peu dans les temps, j'en arrive maintenant à la dernière partie, le royaume eurasien. Alors, bien sûr, vous allez me dire, il a existé un Saint-Empire romain germanique au Moyen Âge. Oui, et ce Saint-Empire romain germanique avait des aspects, par ailleurs, bien intéressants, sauf que, vous le savez, dans les grandes lignes, ce Saint-Empire et la France étaient très souvent en lutte. Pas toujours en lutte, comme se plaît trop à le rappeler Pierre Asselineau, ça n'est pas vrai. Excusez-moi quand même de rappeler que les premiers Carolingiens, à commencer par Charlemagne, étaient tous empereur, hein, on a quand même eu plusieurs, j'ai pas fait le compte, excusez-moi, mais on a quand même eu de très nombreux rois de France, empereurs du Saint-Empire, donc il faut quand même pas trop exagérer. De même que Louis XIV ainsi que François Ier ont prétendu tous deux à vouloir diriger le Saint-Empire romain germanique. Oui, même François Ier. Bon, néanmoins, effectivement, on peut dire que le Saint-Empire romain germanique, en gros, c'était pas sa fonction première, mais il luttait beaucoup contre l'islam. Et finalement, c'est le libéralisme, c'est la contre-traction via la France qui a gagné. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut renverser cet état de fait en faisant émerger un royaume qui lutte contre li le libéralisme en intégrant, entre autres, l'islam. Je dis bien entre autres. D'accord? C'est-à-dire en intégrant également le christianisme, enfin toutes les religions européennes. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a également le bouddhisme. Il y a également dans certaines régions le chamanisme, mais pourquoi pas le druidisme? Je connais des personnes très sérieuses qui tendent à vouloir réactiver cette religion-là. Mais enfin, à la limite, ce sont des détails. Enfin, les deux ou trois dernières religions que j'ai citées. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, j'en viens directement au but, ce qu'il faut, c'est se mettre au même niveau que ce qui s'est passé, que cette révolution qui a eu lieu. Donc à la fin de l'Atlantide, où, comme je l'ai dit il y a déjà une bonne demi-heure, nous avons eu l'émergence du roi, l'émergence politique du roi, qui a été créée, on va dire, presque d'elle-même, enfin disons par les gens dont la substance était plus pénétrée d'or que les autres. Cette fonction émergente du roi s'est faite, bon, donc d'ailleurs lorsque les premiers cités sont nés, hein, puisque lorsque la notion de peuple est née, c'est-à-dire que lorsque des ethnies se sont mises ensemble par le besoin de faire du commerce et ont fait émerger les premières villes, donc à ce moment-là, il a fallu un roi pour contrebalancer la perte de substance qui s'est instaurée. Aujourd'hui, si vous voulez, ce ne sont pas les ethnies qui se mêlent, ce ne sont pas les métiers qui se mêlent, ce ne sont plus les fonctions donc de travail qui se mêlent, puisque aujourd'hui, de toute façon, plus personne ne travaille. Mais ce sont les religions. Et si les religions se mêlent, c'est bien parce que l'universalisme luciférien l'a voulu, parce que c'est la meilleure façon qu'il a trouvée pour les annihiler. Il n'y a rien de plus simple pour détruire la notion même de spiritualité que de prendre des religions, si vous voulez, qui sont distinctes de manière géographique et de manière historique, c'est-à-dire dynamique, et de les faire se. Et de provoquer des collisions entre elles. Donc évidemment, plus ces collisions vont être importantes, et plus l'argent, la démocratie parlementaire et le journalisme seront importants. À ce sujet, cette semaine, j'ai été très 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 attristé hein, d'assister au retour des deux crapules françaises d'Afghanistan. Pour moi, tout journaliste qui revient vivant de sa mission, c'est un peu de liberté perdue en ce bas monde. Bon, je reviens à mon sujet. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une invention. Alors, je ne dis pas invention au sens scientifique, mais c'est une invention de la même façon qu'on a inventé la tombe de Marie-Madeleine en 1279, c'est-à-dire une découverte transcendantale. Il faut inventer la fonction sociale du prophète. De même que le roi a été inventé, je me répète, à la fin de l'Atlantide, aujourd'hui, il faut inventer la fonction sociale du prophète qui va unir les religions, hein, exactement comme au néolithique, donc il fut inventé le roi unissant les ethnies, ce qu'il faudrait donc à l'échelle eurasienne. Donc c'est une Eurasie unie au niveau politique. Une Eurasie unie au niveau politique, c'est-à-dire un homme politique, appelons-le un roi. Si vous voulez, je vous expliquerai plus tard pourquoi le mot d'empereur me gêne un tout petit peu aux entournures. Mais finalement, c'est peut-être pas si important que ça. Appelons-le un roi. En tout cas, c'est quelqu'un dont la fonction reste strictement politique. Moi, je suis pour la division radicale du politique et du spirituel, du politique et du religieux. Bien sûr, ne voyez pas là la moindre notion de laïcité, puisque, comme vous le savez, la laïcité est une religion franc-maçonne. Non, lorsque je parle de séparation entre le politique et le religieux, je me réfère par exemple à la charte récemment signée, enfin il y a 2 ou 3 ans, en 2009 il me semble, entre le courant patriotique libre du général Aoun et le Hezbollah de Seyed Hassan Nasrallah au Liban, où c'est une charte qui insiste très spécifiquement, entre autres, sur la déconfessionnalisation du Liban. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, de manière très paradoxale, on n'a jamais, il me semble, assisté à une telle fusion du politique et du religieux, mais bien sûr du mauvais religieux. Hein, c'est-à-dire que les gens qui nous gouvernent sont tous religieux, ou anti-religieux, si vous voulez, mais en tout cas, ils sont tous, de manière consciente ou non, de manière consciente ou non, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, ils sont tous luciférien. Donc, séparer radicalement le politique du religieux, ça revient en fait de manière très claire à remettre le politique sous les fourches caudines du religieux. Hein, c'est bien sûr dans cet ordre-là que je vois les choses, c'est-à-dire que de la même façon que le roi, j'emploie roi et prêtre de manière traditionnaliste, hein, je ne fais pas référence à un roi et un prêtre forcément catholiques, mais de même que le roi. Qui n'est que, entre 3000 guillemets, qui n'est que le plus fort des guerriers, voit son pouvoir justifié par le pape, eh bien, l'Eurasie, le royaume eurasien sera, si vous voulez, exactement la même chose. Vous aurez le roi qui aura son pouvoir non pas justifié par un guide religieux, parce que aujourd'hui, en Eurasie, vous avez plusieurs religions justifiées, plusieurs religions traditionnalistes. Donc il n'y a aucune raison qu'il n'y ait qu'une religion qui soit à la tête, si vous voulez, qui se permet de justifier le politique. Alors, comment fait-on? Eh bien, justement, il faut une réunion de plusieurs guides, non pas des représentants, hein, des diverses religions, parce qu'on ne représente pas une religion, on la guide. Donc, comme je vous ai dit, a priori, le guide du christianisme, le guide de l'islam, le guide du bouddhisme, pourquoi pas d'autres religions à voir, si on trouve des religions justifiées et suffisamment puissantes et pertinentes. Ces guides se mettent autour d'une table, pour parler un peu vulgairement, et écrivent quelques points de convergence fortes. Et ces points de convergence ne pourront que faire référence au passé, puisque bien sûr, étant le guide d'une religion traditionnaliste, ils trouveront forcément des points de convergence qui font référence à la tradition. Alors, tout ça semble être très... comment dire, pas léger, mais très peu précis. Mais il me semble que, par exemple, l'interdiction de l'usure ressortira forcément d'une telle réunion, si vous voulez. Donc il y a quantité d'exemples, hein, on pourra en parler plus tard si vous le voulez. Mais c'est loin d'être quelque chose de non faisable, puisque de la même façon qu'aujourd'hui, nous tous, vous qui êtes en train de m'écouter, les personnes avec qui je parle du soir au matin, je parle plutôt avec elles du soir au matin que du matin au soir, mais enfin ça peut arriver. Nous avons tous des divergences, mais nous savons tous qu'en cette période pré-révolutionnaire, l'urgence absolue, c'est de mettre en commun nos points de convergence. D'accord? C'est ça qui importe aujourd'hui. Parce que si nous ne cessons de mettre en exergue nos points de divergence, la révolution n'aura jamais lieu. Je pense qu'on en est tous conscients. Donc, de la même façon, si vous voulez, que des révolutionnaires, et j'utilise ce terme exprès, que des révolutionnaires mettent en commun leurs points de convergence pour faire table rase du pouvoir luciférien, eh bien, ces guides mettront en commun leurs points de convergence pour faire advenir la fonction, d'abord la fonction politique du roi, et puis la fonction également sociale du prophète. Ça, j'en ai pas parlé, mais ça sera justement très 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 important, puisque le prophète, qui lui n'appartiendra pas forcément à une religion donnée, mais sera un homme qui sera spécifiquement un homme de la connaissance la plus haute, se permettra de faire le lien, la courroie de transmission, donc entre le roi et les guides, avec bien sûr des artistes. J'ai pas le temps de m'en expliquer, mais pour moi, la fonction du prophète et la fonction de l'artiste sont intimement liées. Des artistes qui donneront également un cadre, en plus du cadre traditionnaliste et spirituel, un cadre esthétique et éthique, qui permettra donc d'encadrer les actions politiques du roi. Une fois que le roi connaîtra ses actions, il sera totalement libre pour gouverner. Étant au centre du royaume eurasien, il émettra le moins possible de décrets. Et en fait, c'est ce qu'on connaît dans la plupart des grands royaumes, c'est ce qu'on a connu en France. On a très peu de lois qui sont issues du roi, hein. Il n'y a pas d'absolutisme forcément, mais vous avez tout un tas de courroies de transmission, des ordres intermédiaires, c'est-à-dire une structure féodale, des ordres intermédiaires de métiers, ou bien, encore une fois, de religions, qui affineront les lois, qui peut-être les adapteront d'une manière ou d'une autre. Et de cette manière, vous aurez la même structure que ce qu'on avait sous la féodalité en France, c'est-à-dire une très grande liberté au niveau local, mais tout cela dans un cadre absolument indubitable, hein, qui viendra donc des guides, vous compris, donc des personnes justifiées pour faire ceci. Donc le front de la foi aujourd'hui, c'est ça qu'il faut mettre en place, n'a rien à voir, je me répète encore une fois, avec un syncrétisme quelconque, bien au contraire. Un vrai roi doit être un roi eschatologique, puisque si bien sûr vous l'avez compris, quand je parle de tout ça, je m'inscris dans une notion eschatologique, hein, puisque l'horizon monarchique, c'est le paradis. Donc je parle ici surtout de retour à l'état primordial, du renversement final des termes et d'un nouveau cycle d'évolution opposé au cycle révolu. Je vais pas parler de la fonction de l'art parce que je vois que j'en suis déjà à 47 minutes, mais la fonction de l'art, c'est Jean Parvulescos qui en parle beaucoup dans ce qu'il appelait l'empire eurasiatique de la faim. Évidemment, Jean Parvulescu, c'est un de mes maîtres. J'ai été très, très, très endeuillé lors de son décès il y a quelques mois. Un de mes autres maîtres, c'est Alexandre Douguine, qui travaille beaucoup sur les thématiques dont je viens de vous parler à l'instant. Politiquement, il s'agit d'essayer de faire émerger un axe, une dialectique eschatologique monarchiste finale, donc préfigurant la parousie, hein, puisque le but, c'est de terminer ce cycle, je me répète. Et pour terminer avec les mots de Jean Parvulescu, qui est quelqu'un d'absolument fondamental et dont je vous recommande notamment La Confirmation boréale, hein, qui a été publiée aux éditions Alexis Pharmac. Jean Parvulescu parlait de l'urgence de faire advenir une nouvelle immaculée conception révolutionnaire, laquelle consisterait, par exemple, de manière très, très concrète, à ce que la Russie, et vous le savez, la Russie fait partie de ces quelques pays phares qui vont servir à relever notre continent. Le jour où Moscou verra sur la place Rouge l'émergence d'une statue de la Vierge Marie, je crois que nous serons très près de cette assomption solaire de la pierre dont je parlais au tout début. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ma conférence est terminée.
Alors, je vais formuler une première question. Voilà, c'est même lui qui va la formuler lui-même. Je laisse la parole à lui.
Bonsoir, vous m'entendez?
Oui.
Laurent James a parlé de l'unité culturelle de civilisation qui venait du Danube et de la Méditerranée respectivement. Alors j'étais étonné par cette affirmation. Je pensais que c'était deux civilisations qui ne s'étaient pas rencontrées avant qui se connaissaient pas avant de se retrouver chez nous, hein, à une ou deux régions près. Et je me demandais comment elles pouvaient comment elles avaient acquis ces points communs, des points communs en dehors des bases de l'anthropologie, je sais pas, l'instinct de conservation, de reproduction, etc. Laurent James a parlé d'une dispute entre des gens qui disent que la France est née à différentes dates. Je pense qu'on peut apaiser la polémique en définissant la France d'abord. Pourrait mettre les gens d'accord. Mais bon, ceci dit, si on voulait choisir une date, puisque certaines personnes proposent 68, moi je propose 1975, qui est une naissance morbide. C'est une naissance parce que c'est une naissance de la France libérale dans une loi qui exprime le libéralisme dans sa cruauté maximale, puisque c'est la loi de libéralisation de l'avortement. C'est aussi une naissance morbide, hein, puisque cet avortement, en fait, on voit la reproduction à l'extérieur, hein, on se reproduit plus, on se reproduit moins pour faire venir des travailleurs moins chers, donc on exporte la reproduction et ça conduit à une dilution culturelle, dilution religieuse, désenracinement, donc aussi abandon des religions, etc. Donc vraiment une naissance morbide. Laurent James a parlé de Clovis. Il y a certaines personnes, c'est vrai, font remonter la naissance de la France chrétienne au baptême de Clovis. Bon, ça procède d'une ignorance crasse de l'histoire parce que je parle des gens qui disent ça, hein, tout simplement parce que Clovis a eu l'intelligence politique de s'appuyer sur la seule hiérarchie qui tenait à l'époque après la chute, au moment de la chute de l'Empire romain, c'est-à-dire la hiérarchie religieuse, tout simplement. Laurent James a parlé de la France comme pays du satanisme. Pour moi, la France, c'est un peuple. La France, c'est les Français. Hein. Si on veut revenir à la définition de la France, donc bah, je suis conduit à lui demander quelle est la proportion de satanistes en France, tout simplement. Après, on pourra parler de France sataniste si vraiment il y a, je ne sais pas, parlons de 90% de Français satanistes. Laurent James a parlé de la naissance du capitalisme industriel. Il a fait, il a donné.
Excusez-moi, il y a beaucoup de questions là, j'ai pas.
Oui, c'est exact. Il y en a eu, enfin, j'en ai distingué trois. Je m'apprêtais à couper aussi Denis pour lui laisser ensuite la possibilité de rebondir. Donc, d'abord, c'est la première question. Je peux la reformuler moi-même. Hein. Comment expliquer que des civilisations qui venaient du Danube et de la Méditerranée ont eu des points communs? Donc là, ça renvoie aux Indo-Européens, donc sur lesquels vous allez, j'espère, répondre tout de suite, puis ensuite on reviendra à sa deuxième question.
Oui, tout à fait. Ça, c'est une question très intéressante. En fait, vous ouvrez n'importe quel livre de vulgarisation sur la préhistoire, et on vous dit que donc à l'époque de ce que l'on appelle le néolithique moyen, c'est-à-dire, hein, je rappelle, à partir en gros de 4200, 4300, 4500 avant Jésus-Christ, donc ce que dans la tradition on appelle l'âge de fer, vous avez une espèce d'unité culturelle. En Eurasie, qui est vue essentiellement, comme je l'ai dit, par l'ornementation des tombes. C'est-à-dire que vous avez des dalles de pierre recouvertes d'un tumulus qui se ressemblent presque toutes et qui sont à l'origine, au moins sur le plan formel, des mégalithes. Les mégalithes, ensuite, ne sont pas toutes. Tous, pardon, des tombeaux funéraires, hein, puisque bien sûr des mégalithes ont servi de moyens de connaissance astronomique, mais il semble que la première fonction donc de ces mégalithes était funéraire. Eh bien, ces deux peuples que l'on appelle des populations néolithiques venaient du même endroit. Elles venaient toutes deux de l'Orient, lequel, bien sûr. Lequel Orient, proche, moyen, on ne peut pas le savoir. Ce que je sais, c'est qu'on trouve des mégalithes qui ressemblent, encore une fois, à ce dont j'ai parlé. On retrouve des mégalithes en Sibérie. On retrouve des mégalithes dans l'Altaï. Et il se trouve que, en fait, on sait qu'il y a deux populations néolithiques qui ont emprunté des trajectoires différentes. L'une est venue par la Méditerranée, et c'est notamment implanté par exemple en Sardaigne ou en Corse, où on a énormément, vous le savez, on appelle ça des stèles menhirs. En Corse, on appelle ça des stazzona, où vous le savez peut-être, c'est en Corse qu'on a la première, il me semble, la première figure humaine sculptée à Filitosa. Eh bien, l'une, donc, comme je le disais, l'une population est arrivée par la Méditerranée et l'autre est arrivée par le Danube. Un peu, si je peux me permettre cette incongruité historique, un peu comme une préfiguration de la venue des Gitans, hein, de la venue des Gitans d'Inde, dont les uns sont venus par la Méditerranée et l'autre par le Danube. Mais enfin, quoi qu'il existe des personnes qui font des liens entre ces populations-là, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Et ces deux populations, de toute façon, venant du même endroit, avaient toutes deux le même genre de pratique. Et elles se sont mêlées, ou bien elles ont écrasé, je ne sais pas du tout, les populations locales mésolithiques. Et comme je le disais tout à l'heure, au début de mon intervention, les populations locales mésolithiques étaient plutôt axées, au niveau religieux, sur le principe de la déesse mère protectrice. Donc, si vous voulez, ces deux populations néolithiques ont imposé un nouveau paradigme, au moins au niveau de la statuaire, puisqu'ils ont imposé on va dire, un culte taurin, hein, que l'on voit dans beaucoup de statuettes. Donc ça, c'est le seul changement. En revanche, il n'y a pas de changement vraiment radical au niveau des stèles funéraires entre les populations du mésolithique et celle du néolithique, si ce n'est qu'on a quand même de plus en plus les corps qui sont orientés et les corps qui sont repliés sur eux-mêmes. Voilà, mais cette unité culturelle, enfin moi j'ai lu aussi bien des articles sérieux de paléanthropologie que dans des ouvrages de vulgarisation que vous trouvez partout, hein.
D'accord, merci de cette réponse. Pour revenir à la question suivante, ou du moins la supposition, je crois, de Denis, c'était de placer disons la naissance, ou du moins un virage. Je me rappelle pas quelle formulation exactement il a employée, mais en tout cas de situer un virage important de pardon, de la France lors de du vote de la loi sur l'avortement, la loi Veil. Voilà, donc je sais pas, ça concerne peut-être pas directement le sujet, enfin si vous voulez rapidement répondre, peut-être qu'on passe à autre chose. Merci.
Oui, non, mais il a tout à fait raison. Il y a comment dire, des dégradations de plus en plus effectives dans notre pays. Maintenant, j'aimerais quand même revenir sur l'assertion de Giovanni Papini, qui disait que la France était de satanisme. Entendons-nous bien, il ne désigne en aucune manière le peuple français. Il désigne la destinée historique de la France. Il désigne le fait que la France soit le premier pays où la modernité ait été érigée comme mode de gouvernement. Moi, bien avant l'avortement, 1975, je placerais comme date funeste 1314, avec la destruction de l'ordre templier par ce Philippe le Bel, le même qui a mis à mort le pape Boniface VIII, le même qui s'est arrogé le droit d'utiliser la monnaie, celui qui disait... le roi est empereur en son royaume. Par exemple, Philippe le Bel est quelqu'un qui est vénéré par quelques courants fascistes, parce que c'est, certains disent, l'inventeur de l'État absolutiste. En fait, il ne faut pas exagérer, parce que c'était pas non plus un État absolutiste, mais en tout cas, il a inauguré une ère, effectivement, de, on va dire, d'isolation. D'isolement plutôt, pardon, d'isolement de plus en plus accru entre le peuple et le roi. Et ce que j'essayais de vous dire quand je vous ai parlé de l'irruption des Francs en Gaule, moi je suis tout à fait d'accord avec le fait que la conversion de Clovis ait été en partie politique. C'est marrant, on dit souvent l'inverse, on dit que Constantin a été petit pour des raisons politiques et Clovis pour des raisons uniquement religieuses. Alors que c'est peut-être le contraire, hein, si on regarde bien le fond des choses. Enfin, l'histoire de France a eu des hauts et des bas, même si globalement l'histoire de France est de plus en plus ressemble à un vortex d'infamie. Mais il y a toujours eu, toujours, toujours des choses très bien qui sont arrivées. Pour moi, par exemple, lorsque les rois sont allés à Amboise. Sous les comment les Orléans sous les Valois d'Orléans hein, si je me trompe pas entre Charles VIII et Henri II nous avons là une épopée qui me paraît vraiment très intéressante une époque où les rois tentent de réévaluer la Gaule justement de s'installer à Tours la patrie de Rabelais c'est d'ailleurs au château d'Amboise où est mort Léonard de Vinci. Donc il y a des étapes qui font croire justement en une transfusion de sang ou une transfusion spirituelle entre la Gaule et la France. Louis XVI, qui le 21 juin 1792, si je ne me trompe pas, a remis la destinée de la France dans les mains de la Vierge Marie. Là, on a un sursaut de facture magnifique. Donc lorsqu'on parle du satanisme français, c'est parce que en fait, c'est la première nation, tout simplement. Et lorsqu'on parle de nation, on sait ce qu'il y a derrière. Il y a aussi bien les protestants que les talmudistes, que les banques. C'est donc la première nation qui s'est installée pour isoler le roi de son peuple et en faire ce qu'il a voulu. Hein, et puis. L'isoler, c'est-à-dire le tordre dans le sens de ces décrets de plus en plus commerçants. Rappelez-vous de la rébellion du prévôt Champ-Étienne Marcel contre le roi. On a eu des choses vraiment qui ne se sont pas passées dans d'autres pays.
Merci encore une fois de la réponse. Je vais laisser Denis de nouveau qui a quelques commentaires. Ensuite, je vais le laisser terminer.
Merci, M. Fortin. Oui, j'avais pas fini la liste, malheureusement. Dans le capitalisme industriel, il me semblait que l'Angleterre et la Prusse s'étaient développées beaucoup plus rapidement que la France. Vous avez, Laurent James, aussi dit que l'Angleterre était une création française. Alors, on sait qu'il y a eu beaucoup de relations politiques, culturelles. Entre l'arrivée des Normands en France et puis l'apparition d'une noblesse normande qui reconnaissait la royauté française. Mais je pense que très tôt, l'Angleterre et la France ont pris des chemins différents. Et en fait, on a même vu l'Angleterre essayer d'avaler la France ou une partie du royaume de France. Je reviens sur Joseph de Maistre, que vous avez décrit comme un catholique romain, si je vous cite de manière correcte. Alors, Joseph de Maistre était franc-maçon, il était ésotérique, donc pas catholique romain, à moins que vous vouliez redéfinir notre Église, hein, puisque je suis catholique romain moi-même, auquel cas bah, je ne peux que me contenter d'exprimer une opinion différente et témoigner au nom de l'Église à laquelle j'appartiens, en toute simplicité. Vous avez parlé des apparitions eschatologiques de la Vierge.
Oui, excuse-moi, Denis, je vais te couper rapidement. Je voulais simplement te dire que si tu pouvais juste synthétiser justement tes questions, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui en posent. Donc voilà, à chaque fois, je demanderai aux personnes qui sont intéressées bah, de comprendre qu'on est beaucoup ce soir et qu'à chaque fois, ce sera une question simple. Et je vous remercie.
Pas de problème, j'ai pas de questions. En fait, ce sont des remarques, mais je passe volontiers mon tour et puis j'attendrai la fin quand les autres ont posé leurs questions. Merci.
Merci, donc c'est Avanwan qui va poser la question. Et pour les autres, hein, ceux qui m'ont contacté, je n'ai pas oublié, donc j'ai fait la liste et ils auront leur tour également. Voilà. Avanwan.
Je voulais peut-être répondre à une question très importante sur le rapport entre tradition et l'Église, si vous le permettez.
Oui, bien sûr, allez-y.
Je suis également catholique, apostolique et romain, et la question de la relation entre, on va dire, ce qu'on appelle la tradition et l'Église catholique est à la fois extrêmement simple, extrêmement compliquée. C'est une question, effectivement, qui nous occupe très, très, très souvent. Il y a une différence entre un catholique traditionaliste et un traditionaliste catholique. Un catholique traditionnaliste, je pense à ceux qui se réfèrent à Monseigneur Lefebvre, par exemple, hein, envers qui j'ai tout le respect du monde par ailleurs. Ce sont pour moi qui suis traditionaliste catholique, ce sont des gens qui sont déjà modernes, puisque ce sont des gens qui se réfèrent au Concile de Trente, à la contre-réforme, c'est-à-dire une Église qui s'est adaptée, si vous voulez, déjà au protestantisme de différentes manières, par exemple au niveau artistique. En opérant tout un tas de nouveautés dans le champ pictural. Enfin, je vais peut-être pas rentrer là-dedans. Si, sauf que moi, quand je lis Léon Blois, par exemple, dans Le Désespéré, quand il s'en prend aux catholiques 19e, il s'en prend également aux catholiques qui ne se réfèrent qu'au Concile de Trente. Moi, si vous voulez, mon catholicisme est médiéval, hein, c'est celui de Léon Blois. C'est celui qui se réfère le plus directement à la tradition. Et pour aller un petit peu plus dans le détail, mais ça va me prendre que 15 secondes, si j'ai d'autres questions là-dessus, je me ferai un plaisir d'y insister, hein. Le rapport, si vous voulez, entre la tradition et l'Église catholique, apostolique et romaine, en fait, il est très simple. C'est le rapport que vous avez dans toute religion entre l'ésotérisme et l'exotérisme. C'est le rapport entre le prophète, c'est-à-dire celui qui sait, c'est-à-dire dans l'Église catholique, le moine qui choisit la règle dans laquelle il veut s'inscrire. Ça, c'est l'ésotérisme. Et puis d'autre part, l'exotérisme, c'est-à-dire le prêtre, celui qui est là pour soigner ses ouailles, celui qui est là pour faire des messes, etc. Les deux sont complémentaires. Il ne me viendrait jamais à l'idée d'opposer l'un à l'autre. Et les deux personnes, si vous voulez, qui opposent l'un à l'autre, ce sont d'une part les ésotéristes malsains que moi j'ai eu souvent à fréquenter. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant très 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 longtemps, je me suis jamais intéressé à l'ésotérisme. Hein, c'est quand je vois des gens comme Jovanovic qui vous déclarent qu'ils pissent sur l'Église, tout en s'intéressant à l'ésotérisme. Bon, effectivement, je comprends que ça donne pas envie de s'intéresser à l'ésotérisme. Ça, c'est un premier écueil. Il y a un deuxième écueil, c'est les gens qui sont effectivement catholiques, apostoliques et romains, et qui ne comprennent pas, à mon sens, à leur juste manière, Saint Jean. Hein, c'est-à-dire que Saint Jean, c'est l'Église intérieure, c'est l'Église du cœur, et c'est l'Église, par exemple, directement liée à l'ordre carthusien, à l'ordre des Chartreux. Donc vous avez une coexistence de ces deux ordres-là, et ce n'est pas parce que l'Église de Pierre est la plus visible et la plus, si vous voulez, comment dire, ordonnatrice de règles au niveau populaire, que l'autre n'existe pas. Elles sont complémentaires comme dans toute religion, je me répète.
Merci de la réponse. On laisse la parole à Vanoman pour la deuxième question, enfin pour la deuxième personne qui intervient du moins, et ce sera une seule question donc par personne à partir de maintenant.
Alors, bonsoir à Laurent James. Ouais, on a reçu Franck Abed ici pour une conférence il y a 2 semaines à propos de la monarchie, et j'ai cru comprendre que Laurent James l'avait rencontré lui aussi. Donc, je voulais savoir si vous aviez un petit peu parlé justement de monarchie, et s'il y avait des lignes de convergence ou bien des lignes de fracture claires entre vous. Voilà, merci.
Oui, effectivement, j'ai rencontré Franck Abed hier, enfin c'est sur son invitation. Bah, écoutez, dans l'ensemble, hein, on s'est très bien entendu. On n'a pas la même histoire, on ne partage pas les mêmes vues, mais comme je le disais au cours de mon exposé, ce sont des choses sur lesquelles il ne faut pas trop insister pour le moment. Mais enfin, pour que les choses soient claires, bien sûr. Lui, il fait partie de la deuxième genre de personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le catholique qui réfute absolument toute notion d'ésotérisme. Je lui expliquais en quoi, à mon sens, il se trompait, mais bon, il est resté sur ses positions. On s'entend énormément, si vous voulez, sur le but, sur notre ligne d'horizon, à savoir que. Il combat également pour une monarchie universelle. Hein. Vous savez que Franck Abed n'est pas nationaliste et qu'il s'attache à démontrer ceci. Mais il me semble qu'on en saura peut-être plus parce qu'on est amené à se revoir avec Franck et à développer ce genre de choses. Mais globalement, sur le plan du point de vue intérieur, c'est-à-dire le plan de l'individu face au cosmos, Franck Abed sommes probablement radicalement différents, Franck Abed et moi. Et sur le plan extérieur, nous sommes vraiment très proches.
Merci. Question suivante que je vais moi-même formuler et relayer. Donc, semble-t-il, dans une conférence précédente, vous avez parlé de chevalerie islamo-chrétienne. Donc, cela, entre guillemets, serait votre expression. Pouvez-vous définir un petit peu la chose et la préciser? Merci.
Alors ça, c'est très intéressant. Parce que ici, on touche à quelque chose de encore plus concret que ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, je vais répondre un peu à côté, et puis vous allez voir, en fait, on va tomber en plein dedans. La question, c'est comment prendre le pouvoir. Mon but à moi, directement, n'est pas de... Moi, je ne suis pas un militant politique. Parce que vous l'avez compris, je ne suis pas Enfin, je fais partie d'un parti qui est le parti antisioniste. Mais qui, pour moi, justement, est un parti métapolitique. J'ai un peu l'avis de Charles Péguy sur le côté strictement politique. À partir du moment où on s'engage dans la politique pure et dure, ça veut dire déjà qu'on accepte certaines choses, qu'on rentre dans un certain cadre que moi je refuse. Alors, pourquoi est-ce que je parle? Pourquoi est-ce que je combats? Voilà, je suis persuadé, sans doute comme vous tous, qu'un jour ou l'autre, il y aura des révoltes en Europe et notamment en France. Ces révoltes, laissez-moi vous dire une chose, elles auront lieu dans la rue quand nous serons en train de discuter, dans un bar ou dans une salle ou chez nous. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que même les personnes les plus pertinentes, les plus pénétrées de ce qu'elles disent et les plus sensibles, même ces personnes-là n'auront strictement aucune influence sur le début des événements à venir, c'est-à-dire que les prochaines révoltes, je parle de révoltes sérieuses, c'est-à-dire des révoltes, comme le disait Soral récemment, des révoltes menées par des petits artisans, des ouvriers, et certainement pas par des étudiants en lettres, on est bien d'accord. Quoique, ils peuvent en faire partie, hein, parce qu'il y a des étudiants en lettres qui peuvent être sérieux, hein, pas d'essentialisme là-dedans. Mais enfin, vous m'avez compris. Quand ces révoltes-là auront lieu, on ne connaîtra pas le nom des gens qui seront à leur tête. C'est certain. On aura une. Vous savez, la spontanéité, ça existe. C'est-à-dire, à partir du moment où une figure qui sera aimée ou plus ou moins appréciée, une figure positive qui sera appréciée dans le peuple, aura à subir des revers de la part de la banque ou du journalisme ou du monde démocratico-parlementaire, à ce moment-là, le feu prendra. Le problème, la question plutôt, se pose lorsque la révolte s'essoufflera. Parce qu'au bout de quelques jours, bien sûr, la révolte s'essouffle. Que se passe-t-il à ce moment-là? Vous l'avez vu en Tunisie, il s'est passé la pire des choses. Je ne lis pas que Joseph de Maistre, je lis la revue Gala de temps à autre. Et j'ai vu, il y a 2 ou 3 semaines, le ministre du tourisme tunisien, Dieu sait qu'il doit avoir un rôle très important, celui-ci, je ne me souviens plus de son nom, posait dans Gala parce qu'il organisait une fête au Café des Nattes à Sidi Bou Saïd, en compagnie donc de Patrick Bruel, de Gérard Darmon, de Michel Boujna, etc. Et Patrick Bruel disait, c'était écrit en gros dans Gala, maintenant la Tunisie est de nouveau à nous, quelque chose d'approchant. Donc on sait maintenant qu'est-ce qui a pris le relais en Tunisie de leur révolte qui était sans doute initialement spontanée. Ce qui se passera en France, ce qui se passera en Italie, ce qui se passe déjà en Grèce, risque d'avoir la même tournure. C'est-à-dire que, en gros, les banques, la démocratie médiatico-parlementaire, le tourisme, c'est bien sûr un des mouvements les plus atroces de ces 200 dernières années, tentera de prendre le relais. Ce qu'il faudra faire, à mon sens, hein, pourquoi je m'inscris dans la métapolitique, c'est que ce qu'il faudra faire au moment où la révolte s'essoufflera, c'est montrer qu'il existe une autre réponse. Et cette autre réponse peut être apportée par une petite bougie, une petite flamme, qui sera peut-être vacillante, mais qui sera très structurée, parce que cette petite flamme, elle sera portée par un homme qui sera, si vous voulez, le fourrier d'une chevalerie. Voilà. Et cette chevalerie, ce que je m'efforce de faire avec des amis aujourd'hui, c'est une chevalerie porteuse donc de valeurs très simples, très très simples, mais également structurée effectivement comme une chevalerie, c'est-à-dire avec des valeurs à la fois spirituelles et de combat. Voilà. Donc lorsque cette chevalerie existera, et même si elle n'existe pas tout à fait, il faut de toute manière qu'elle soit précédée par une lumière suffisamment forte pour qu'on puisse, à ce moment-là, ça sera un combat, hein, clair, pour qu'on puisse tenter de contrebalancer les influences néfastes, qui ne manqueront pas d'apparaître, lorsque les révoltes s'essouffleront. Et pourquoi chevalerie islamo-chrétienne? Eh bien, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai parlé d'une union de guides spirituels. Cette union, elle se fera lorsque la révolution sera remportée. Je parle de révolution traditionnaliste, hein, c'est-à-dire une révolution à l'image de la révolution de Téhéran en 79. Je vous rappelle qu'il y avait une revue qui s'appelait Totalité, et beaucoup de gens traditionnalistes en France, que l'on classait à l'époque plutôt à l'ultra-droite, qui tentaient de comprendre cette révolution iranienne et qui essayait d'en tirer les leçons pour l'Europe. Aujourd'hui, ce mouvement-là, voilà, c'est celui-ci que j'aimerais réactiver, si vous voulez. Et une chevalerie islamo-chrétienne, c'est parce qu'il me semble naturel que des combattants chrétiens qui sont toujours présents, malgré ce que dit la doxa aujourd'hui, qu'on entend partout, les combattants chrétiens et les combattants musulmans mettent les points qu'ils ont en commun. À la fois leurs points, on va dire, spirituels et leurs forces combatives pour effectivement bâtir cette chevalerie. Voilà.
Merci encore. Je me fais le relais d'une nouvelle question. Que pensez-vous des théories prophétiques concernant le grand monarque, virgule, le retour du roi français? Voilà.
J'en ai parlé durant ma conférence lorsque j'ai évoqué le retour d'Arthur. Le retour d'Arthur, vous savez, qui est enterré à Avalon. Arthur, bien sûr, est très 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 important. C'est un personnage emblématique de notre histoire parce qu'il est à la jonction du celtisme et du christianisme. Arthur, c'est l'ours. Qui à la fois est porteur de bonnes choses et de mauvaises choses, parce que enfin, une partie de l'histoire de France est une partie de l'histoire de la rébellion de l'ours contre le sanglier, c'est-à-dire une histoire de la rébellion du guerrier contre le prêtre, donc en l'occurrence d'Arthur contre Merlin. Hein, rappelez-vous, je vous ai dit au tout début de ma conférence que la figure du sanglier était très importante. C'est un sanglier qui a tué Philippe le Bel, par exemple. Philippe le Bel a subi une chute mortelle de son cheval et est mort du fait d'une chasse au sanglier. Donc Arthur est une figure emblématique et son retour peut tout à fait être envisagé comme cela, c'est-à-dire que le retour du grand monarque ou du roi du monde, si vous voulez, je reviens à la notion de René Guénon, peut tout à fait être lié à un roi français. Moi, ça ne me gêne en aucune manière. Mais vous savez, il y a d'autres rois en Europe. Vous avez un roi qui est excessivement important, qui est le prince Arpad en Hongrie, qui lui... je vous conseille de voir son histoire, il est extrêmement important. Le roi Sébastien au Portugal, hein, dont parle beaucoup Dominique de Roux et Raymond Abélio, qui est mort pendant une bataille comme ça, sur une bataille maritime. Il y a beaucoup de rois ensevelis, et ce que j'estime, c'est que si vous voulez, chaque région, chaque communauté doit fouiller son histoire. Ou plutôt sa méta-histoire. Chaque région doit fouiller sa propre spiritualité pour dégager les forces suffisantes, hein, pour se mettre en commun avec les autres communautés, les autres religions, et pour faire émerger le besoin radical du roi. Voilà. Après, que la région, que la France se mette sous l'égide, si vous voulez, métaphorique du roi Arthur pour faire émerger le roi du monde à l'échelon européen, il n'y a aucun problème pour ça. Sauf qu'en France, je vois pas d'autres. Je ne vois pas d'autre roi suffisamment emblématique et porteur de valeurs saines que lui.
Merci encore. Question suivante. Quelles sont les vastes questions, hein, mais bon. Quels sont les fondements, je la restitue telle quelle, quels sont les fondements mythiques et littéraires du royaume eurasien?
Oui, c'est une vaste question. Mais quand même, je vais être très précis. Lisez la préface des possédés de Dostoïevski, ou des démons, hein, le titre Les démons est plus proche, semble-t-il, de la réalité. Lisez la préface qui est une lettre écrite à l'adresse du tsar Alexandre II. Vous avez ici, je pense, la naissance de l'Eurasie telle que je la conçois. C'est-à-dire la naissance d'un pays. Enfin, évidemment, c'est pas la naissance de la Russie, hein, cette lettre-là. Mais vous avez la naissance d'une prise de conscience chez un écrivain étant rien d'autre que le continuateur du prophète. Vous avez la prise de conscience chez un écrivain qu'un pays fondamental tel que la Russie ne doit pas se pétersbourgiser. D'accord? C'est-à-dire que Saint-Pétersbourg a été construite contre Moscou. Saint-Pétersbourg a été construite avec des architectes italiens et français pour avoir une image strictement occidentale, non pas européenne. Notez bien la différence, mais occidentale. L'Occident, c'est ce qui est oxy et c'est ce qui oxy à la fois, c'est-à-dire le règne de la mort. Dostoïevski se soulève contre l'occidentalisation de son pays. Et combat pour la russification. Vous avez le mouvement qui s'appelle vraiment Eurasie, qui est né bien avant les idées de Douguine, qui date, il me semble, des années 1920, avec, si j'ai bonne mémoire, des gens, des artistes, des intellectuels, comme Troubetskoï, comme Alexeïev, qui sont des gens qui étaient pour la plupart des vieux croyants, comme Douguine par ailleurs. Hein, vous saviez que les vieux croyants, c'est un mouvement religieux rattaché bien sûr à l'orthodoxie, qui a complètement été décimé après la construction de Saint-Pétersbourg, justement. Puisque le tsar Pierre II, qui a construit Saint-Pétersbourg, a interdit aux Russes de porter la barbe longue, par exemple. C'est-à-dire a interdit d'arborer le signal d'appartenance aux vieux croyants. Donc, le concept d'Eurasie politique, je parle de politique là. C'est-à-dire métapolitique, c'est-à-dire artistique, bien sûr. Il est né, à mon sens, avec cette lettre de Dostoïevski.
Merci beaucoup. Je fais le relais d'une nouvelle question d'ordre artistique, cette fois, dont vous disiez qu'elle était la nostalgie de Dieu. Alors, je relaie la question. Le motif spirituel des mouvements artistiques du XXe siècle, que l'on désigne comme fondateur de l'art abstrait, Kandinsky, Malevitch, donc, en étant les représentants, peut-il ou doit-il être utilisé comme modèle pour penser la spiritualité dans le cadre de l'unité du royaume eurasien? Question très précise, donc.
C'est une question d'autant plus précise qu'elle est belle. C'est une question absolument magnifique parce qu'elle dit tout ce qu'il faut dire. Si vous transformez cette question en affirmation, elle dit tout ce qu'il faut dire. Je vais essayer d'aller un peu plus loin avec cette notion-là. J'étais, bon, j'habite à Marseille, j'étais il y a quelques jours à Paris. J'ai visité l'exposition de Gino Severini, un des maîtres du futurisme, à l'Orangerie. J'ai été vraiment très frappé, pas de manière très positive. Je connais assez bien le mouvement futuriste, je connais plus d'autres artistes que Severini. Mais, globalement, toutes les avant-gardes des années 20 étaient les avant-gardes spirituelles. Vous avez aussi bien le vortisme en Angleterre que le mouvement en France, curieusement. Enfin, vous avez eu bien sûr les surréalismes qui étaient très, 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 très faibles. Vous avez eu le mouvement littéraire du grand jeu, qui est absolument fondamental pour qui veut comprendre notre époque aujourd'hui. Et vous aviez effectivement donc le suprématisme en Russie. Le suprématisme était un mouvement spirituel. Pourquoi? Parce que, à mon sens, c'est un mouvement qui voulait retrouver les formes, si vous voulez, fondamentales, les formes géométriques fondamentales dont est tissée la réalité. C'est donc un mouvement platonicien. C'est un mouvement dont le but est de déceler derrière l'apparence de la chair, derrière l'apparence de la nature, derrière les formes mouvantes, derrière le voile de Maya, si vous voulez, les structures intangibles de l'essence, hein, c'est-à-dire faire un trou dans la substance pour saisir l'essence. Voilà le mouvement fondamental de quelques mouvements en Europe, dont le futurisme et dont le suprématisme. Pourquoi le suprématisme était beaucoup plus fort? Parce que les formes que vous avez de Malevitch, la plupart de ces formes bougent. La plupart de ces formes sont en mouvement, ou parfois très peu. Lorsque vous voyez le carré noir sur fond blanc de Malevitch ou le carré noir sur fond noir, il semble être statique. Rapprochez-vous très près de ce tableau et vous verrez que tout est peint, non pas bien sûr au rouleau industriel, comme l'aurait fait un peintre abstrait, justement, des années 50, mais peint très délicatement en artisan, hein, en artisan, peint très délicatement au pinceau. Ce qui fait que le carré vibre. Je vous fais le pari, hein, approchez-vous très près de ce tableau, ou éloignez-vous-en au maximum, vous choisissez, mais vous verrez toujours le tableau vibrer. Et vous avez ça aussi dans d'autres tableaux de Malevitch. J'en ai pas sous les yeux, mais vous avez, il me semble, vous avez des aérolithes, c'est-à-dire des parallélépipèdes qui se développent dans l'espace. Et ça, c'est une réponse à la célèbre sculpture d'Umberto Boccioni, Forme se développe dans l'espace. Ça, pourquoi est-ce que c'est très beau? Parce que Malevitch savait, si vous voulez, que les formes géométriques dont est tissé le réel sont dynamiques. Et j'ai parlé durant ma conférence du dynamisme de l'unité. Hein, ça, c'est absolument fondamental. Pourquoi est-ce que je dis, moi et quelques milliers d'autres, que l'histoire est cyclique? Parce que tout est cyclique, parce que la vérité elle-même est cyclique. Hein? Quand je vous disais que Dieu peut être défini entre mille autres choses comme une contraction infinie du cycle sur lui-même, ça c'est, je me répète, mais c'est bien de se répéter, c'est aussi bien admis par Maître Eckhart que par Ibn Arabi, hein, le cheikh Al-Akbar, Ibn Arabi. Donc vous avez le rythme. Cela ne veut rien dire si ça n'a pas de rythme. Ceux qui ont des connaissances jazzistiques ont reconnu la citation. Tout est rythme, absolument tout est rythme. Seul ce qui n'a pas de rythme ne signifie rien. C'est pour ça que le Lucifer ne signifie rien en fait. Le mal n'a aucune signification parce qu'il n'a pas de rythme. Voilà. Le mal, c'est ce qui essaye de tuer le rythme. Et le futurisme a très bien compris ça en donnant un rythme. Pardon, excusez-moi. Le suprématisme a très bien compris ça en donnant un rythme aux formes élémentaires, voire même élémentales de la réalité, et même de la vérité. Voilà, j'en reviens à Severini. Pourquoi ces tableaux étaient relativement mauvais? C'est parce que Severini a tenté, lui, d'associer le cubisme, qui est un mouvement qui tentait justement de déceler ces formes élémentaires derrière la réalité, mais le cubisme est quasiment uniquement statique, quasiment uniquement statique. Il a essayé d'associer ça au futurisme, qui est quasiment uniquement dynamique. Le problème, c'est que quand Severini l'a fait, ce n'était pas un homme spirituel. C'est-à-dire, voilà pourquoi ces tableaux sont relativement pauvres. Il y a des très belles choses. Mais ce n'est que 10 ou 20 ans après ces tableaux-là, dans les années 30 ou 40, je ne sais plus, 30 je crois, que Severini a rencontré Jacques Maritain, le filleul de Léon Blois, et qu'il aurait pu à ce moment-là faire une synthèse disjonctive, synthèse opérative entre ces deux mouvements et faire des tableaux à la hauteur du suprématisme. Le suprématisme, à mon sens, c'est le seul mouvement d'avant-garde qui est donné, si vous voulez, une justification absolument esthétique dans le vrai sens traditionnaliste du terme à l'art. Voilà pourquoi je me propose, c'est pas forcément une boutade, mais s'il existait un jour un drapeau au royaume eurasien, le carré noir sur fond blanc me plairait énormément. Outre le fait, bien sûr, mais là je vais m'arrêter, que c'est un tableau qui débouche sur la notion très importante du vide fécondant.
Merci beaucoup. Je me fais le relais d'une autre question qui n'en est pas vraiment une. Enfin, une personne qui souhaiterait que vous précisiez de nouveau la différence que vous faites entre la notion précise donc de syncrétisme et d'autre part l'idée enfin, que la personne a appelé le pot commun entre guillemets, mais qu'on pourrait peut-être appeler l'origine. C'est ça donc la différence entre syncrétisme et origine des traditions.
Alors, l'origine des traditions, en fait, c'est une origine dynamique, hein, c'est-à-dire que, si vous voulez, au début, enfin au début, quel début? Lequel, pardon. Par exemple, si on se cantonne à notre Manvantara actuel, c'est-à-dire lorsque l'histoire a débuté il y a, on va dire, 64 800 ans, pour être imprécis, hein, parce que, en fait, c'est une fausse précision, hein, je toujours. Donc pour reprendre ce début-là, nous avons deux peuples. Nous avons clairement deux origines. Vous avez une origine, si vous voulez, hyperboréenne au pôle Nord, et vous avez une origine africaine. Hein. Il y a deux origines clairement distinctes que vous avez au tout début de l'histoire du monde, de notre monde-là. Donc vous avez plutôt, bien sûr, l'origine hyperboréenne dont viennent, on va dire, les Néandertaliens. Et une origine africaine dont viennent les Cro-Magnons. Ce sont des termes que je n'aime pas trop, hein, mais pour bien me faire entendre, j'utilise ces termes-là, parce que c'est des termes profanes, purement scientifiques, donc ils ne disent pas tout ce qu'il faut dire. Donc, déjà, l'âge d'or qui a duré 25 920 ans, durant lequel vous avez donc le tour complet de la planète sur elle-même, hein, c'est-à-dire vous avez les 12 constellations. Qui sont les unes après les autres visitées par le point vernal, eh bien, vous avez différents rapports entre l'humanité et Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque nouveau cycle, et encore plus entre chaque âge, quand vous passez de l'âge d'or à l'âge d'argent, par exemple, à chaque fois, vous avez un cataclysme, une catastrophe, une métacatastase, c'est-à-dire vous avez un changement radical entre les relations, dans les relations entre l'homme et la divinité. Donc, quand je parle d'origine unique des traditions, il faut bien me faire comprendre, c'est une origine dynamique. Hein, vous n'avez pas au début des temps le judaïsme, le celtisme, l'islam, etc., qui coexistent. Ces religions sont nées successivement les unes des autres dans des conditions historiques précises, lesquelles conditions expliquent partiellement leurs conditions. D'accord? Et le syncrétisme, justement, piège dans lequel est presque tombé Fridtjof Schuon, un disciple de Guénon, c'est justement, ça consiste justement à. Si vous voulez, à comparer les religions entre elles, à un instant T, voilà, je m'assieds à mon bureau, je regarde toutes les traditions, et puis ben, je vois qu'elles ont beaucoup de choses en commun. Donc j'essaye, dans le pire des cas, d'établir une équivalence entre ces religions, et alors dans le pire des cas possible, je prends ce qu'il y a de bon dans chacune des religions, et je me fabrique ma propre religion. Ça, c'est justement ce que veut le système. Parce que si vous faites ceci, vous n'aurez plus de spiritualité. À partir du moment où vous fabriquez votre propre spiritualité, vous n'en aurez plus à terme, même à moyen terme, vous n'en aurez plus. Donc il faut s'inscrire. Moi, je ne suis pas contre le fait de changer de religion, d'accord? Mais pour moi, le mouvement naturel fondamental, c'est de s'inscrire dans la religion de ses ancêtres.
Merci beaucoup. Je me fais le relais d'une autre question sur extrêmement précis sur les historiquement sur les Templiers, sur leur extinction et pourquoi cela a été ou aurait été une erreur d'après la question que pose la personne d'exterminer ces Templiers, donc à l'époque de Philippe le Bel.
Est-ce qu'il vous est possible de demander à cette personne pourquoi ce n'est pas une erreur d'assassiner les Templiers?
Alors, il faudrait que la personne prenne le micro, qui est Maloc.
Oui, c'était moi qui avais posé cette question. Effectivement, Laurent, dans ton explication, tu as dit que c'était une erreur. Et moi, je voulais savoir, de ton point de vue, pourquoi ça a été une erreur. Est-ce que dans ta compréhension et ton explication, qu'est-ce que les Templiers ont vraiment apporté d'après toi, c'est tout?
Alors, en fait, bien sûr, on ne connaît pas grand-chose sur les Templiers. Il y a des études très 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 intéressantes de René Guénon sur ce point, dans lesquelles il démontre, si vous voulez, un lien entre les Templiers et un groupe qui existe, un groupe ésotériste un peu de même nature qui existait en Italie, qui s'appelait les Fidèles d'Amour, dont faisait partie Dante, par ailleurs, et qui s'inscrivait dans, si vous voulez, le symbole de la Rose-Croix. Pour symboliser la connaissance fondamentale. La connaissance fondamentale, laissez-moi en dire un tout petit mot, quel est le but de cette connaissance fondamentale? Eh bien, c'est d'accomplir le devenir de la manifestation cyclique en nous. Hein, je vous rappelle en quoi consiste cette manifestation cyclique: création, procession et résorption en l'unité. Donc la connaissance consiste, si vous voulez, d'abord à se connaître soi-même. Ça, c'est le cycle de la procession qui est modélisé donc, par le comment par quasiment par le pendu hein, dans la carte du tarot. Se connaître soi-même revient à se connaître dans toutes les directions possibles pour ensuite pouvoir mieux s'abolir, mieux s'éteindre en Dieu. Le but étant l'identification finale, pas l'égalité, bien sûr. Je contreviens immédiatement. Aux objections qui peuvent m'être faites dans ce sens. On est très vite mal compris quand on parle de ces choses-là. Donc l'identification de bas en haut entre l'homme et Dieu. Donc la connaissance a ce but-là. Il se trouve que les Templiers partageaient avec les fidèles d'amour, par exemple, le symbole de la rose inscrite dans une croix. Et vous savez qu'il y avait aussi une autre congrégation qui s'appelait les Rose-Croix, qui a été, semble-t-il, d'après René Guénon et d'après d'autres personnes, la dernière congrégation initiatique de France, sinon d'Europe, parce qu'en fait toutes ces congrégations n'étaient pas purement françaises, et qui s'est éteinte, il me semble, après la guerre de 30 ans. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Elle s'est éteinte d'ailleurs, non pas après avoir subi une extinction, mais elle a quitté la France pour rejoindre, comme c'est curieux, l'Orient, en tout cas c'est ce que disent certaines traditions, et pas n'importe quel Orient, c'est-à-dire un point de convergence entre, enfin, on va dire un paradis terrestre co-signé par eux. J'en reviens aux Templiers. Si vous voulez, la manière dont ils ont été éradiqués, d'abord est tout à fait abjecte. C'était un ordre qui, malgré ce qu'on répète un peu trop souvent, n'avait pas pour fonction première de participer militairement exclusivement à la reprise de Jérusalem des mains des musulmans. Ça, vous aviez des ordres de chevalerie guerrière très compétents pour cela. Non, les Templiers étant versés dans la tradition et donc connaissant les sourdes connivences lumineuses entre, si vous voulez, le christianisme et l'islam, ou si vous voulez, entre un certain christianisme et un certain islam, ont établi des connexions, on le sait de manière sûre, avec certains sachants, certains, comment dire ça, certains enseigneurs, pour reprendre un terme de Marie-Madeleine, certains enseigneurs musulmans. Donc, le but de ces gens-là était d'établir, si vous voulez, une espèce de réseau, oserais-je dire, de chevalerie islamo-chrétienne, à l'époque, pour essayer de contrevenir au mal qui émergeait, c'est-à-dire, hein, à l'époque, vous aviez donc les premiers signes de très grands problèmes, entre autres la guerre de Cent Ans, hein, d'ailleurs, on parlait de l'Angleterre tout à l'heure, bien sûr que l'Angleterre a été. Est une fondation française en tant que nation, mais c'est très vite détaché de la France. Vous avez les premières banques, vous avez un peu plus tard, enfin 150 ans après la naissance du protestantisme, donc vous avez d'immenses problèmes émergents. Et puis, entre autres, comme problème, excusez-moi de revenir dessus, mais la centralisation de la France, c'est-à-dire l'éradication complète sur le plan symbolique de son peuple. Parce que la centralisation de la France n'est rien d'autre que ça. Laquelle centralisation a été ensuite suractivée par Louis XI, il me semble. C'est une. Si vous voulez, c'est vraiment le fait de transformer la France en un concept, en un point-virgule. La France n'a rien, si vous voulez, de charnel depuis ces époques-là. Et pour moi, il est certain que l'ordre des Templiers, qui était présent d'ailleurs, ce n'est pas anodin de le noter, sur tout le territoire français, il n'y a pas un lieu important de France qui n'ait été enluminé par ces gens-là, eh bien, voilà, ce sont les Templiers qui ont été tués de manière abjecte, il y a eu des tortures, mais vous allez me dire, c'était courant à l'époque, non, pas tant que ça. Vous avez eu des promesses de la part du roi de les épargner si jamais ils se reniaient, chose qu'ils n'ont jamais faite. Et puis vous avez bien sûr toute l'accusation de manipulation financière, parce que évidemment c'était des gens qui avaient, semble-t-il, relativement d'argent. Ce qui est tout à fait normal, puisque je le répète, l'argent appartient à l'Église et non pas au roi. Hein, ce sont, aussi loin qu'on puisse remonter, ce sont les druides qui modelaient l'argent de manière à y inscrire les symboles qu'il fallait. Parce que si l'argent appartient à l'Église, c'est justement parce qu'elle sait, elle, exactement comment il faut s'en servir. Hein, c'est tout. C'est de cette manière qu'elle saura se prémunir, si vous voulez, de tout ce qui ressemblera de près ou de loin à de l'usure. Voilà. Et donc, Philippe le Bel, en voulant s'accaparer l'argent et en voulant devenir, comme je le disais tout à l'heure, empereur en son royaume, a éliminé ses ennemis les plus importants, à savoir, je répète, la dernière congrégation à la fois ésotériste et à la fois proprement gauloise. Puisque, étant ésotériste, elle avait un savoir qui la mettait directement en connexion avec le savoir druidique.
Merci encore. Je me fais le relais donc d'une question précise sur un penseur contemporain, René Girard. Donc, est-ce que vous intégrez la pensée de René Girard sur le christianisme dans une vision traditionnaliste?
Oui, je ne peux pas vous répondre. Je ne connais de René Girard que les grandes lignes. Voilà, c'est quelqu'un qui ne m'a jamais particulièrement intéressé, mais j'attends qu'on me soumette un texte qui montre que, voilà, j'ai trop vu de textes consacrés dans Télérama à René Girard pour m'y intéresser véritablement, mais je ne demande qu'à le connaître.
Quels sont les points de divergence entre votre vision de l'eurasisme et celle de Alexandre Dugin?
Oui, voilà une question très intéressante parce qu'il y en a bien sûr, puisqu'il n'existe pas. Sans doute pas deux personnes qui pensent de la même manière sur tous les sujets. Alexandre Douguine est fermement amoureux de son pays, qui est la Russie. Et Alexandre Douguine est un vieux croyant. Donc, si vous voulez, c'est un porteur de la religion orthodoxe comme étant, selon lui, la seule. Religion, comment dire, oui, la seule religion catholique. Voilà. Donc, Alexandre Douguin a beaucoup d'arguments pour cela. qui sont fort intéressants. Quand on s'est parlé récemment, je lui ai expliqué en quoi moi je ne pouvais pas le suivre là-dessus, et j'ai expliqué pourquoi. Voilà. Par exemple, Alexandre Douguine, sa grande vision géopolitique, si vous voulez, c'est le fait de voir que la Russie, qui, je le répète, je le rappelle, vous le savez tous, qui est allée sur 10 fuseaux horaires, que la Russie et les États-Unis sont les deux pôles de l'histoire. Et Douguine a toujours vu l'Europe comme une couche tampon qui, à chaque combat entre la Russie et les États-Unis, s'est intercalée pour, au final, se mettre au bénéfice, volontaire ou non, des États-Unis. En gros, voilà son idée. C'est-à-dire que, par exemple, Douguine dit que le grand combat aujourd'hui géopolitique, c'est le combat entre la puissance thalassocratique, la puissance des océans, les États-Unis, et la puissance de la Terre, la Russie. Et que l'Europe, n'ayant jamais su tellement choisir laquelle puissance préférée, s'est finalement inféodée aux États-Unis parce que, voilà, elle a jamais su, si vous voulez, se mettre délibérément du côté de la Terre. Autre chose, le fascisme, par exemple, dans les années 30, pour Douguine, d'après mes souvenirs hein, de ses lectures, le fascisme a été une solution présentée par l'Europe qui n'était pas traditionnaliste et qui, au final, donc je disais bien que c'était de manière involontaire ou non, au final, de manière politique, a servi les États-Unis, puisque, en fait, ce que Douguine reproche à l'Europe, finalement, c'est de n'avoir jamais suivi la route russe. Et donc il lui reproche également ceci sur le plan strictement religieux, puisque selon lui, la Russie, dès le départ, mais c'est ce que je lui ai dit, le départ de la Russie est beaucoup plus enfin, est beaucoup moins ancien que le nôtre, puisque si mes souvenirs sont bons, on peut attribuer à la rencontre entre des tribus slaves et des tribus vikings. À Kiev, il me semble, en 1000 et quelques, ou peut-être en 900, fin du 10e siècle, je me souviens plus exactement, la naissance du premier noyau dur de la Russie. Eh bien, dès le départ, c'est vrai, il y a eu disons, un système diarchique, c'est-à-dire une, j'allais dire une gestion du pouvoir. Le mot est très mauvais. Je fatigue un petit peu. Une mise au pouvoir, si vous voulez, à la fois du roi et du représentant et du guide de la religion. Chose effectivement qu'on n'a jamais eue en Europe. Et il dit, lui, Douguine, que si on n'a jamais eu une Europe unifiée sous l'égide à la fois d'un roi et d'un pape, c'est dû à l'essence même du catholicisme papal qui s'est imposé en Europe. Donc voilà en gros les points de divergence que nous avons. Ce sont des points de divergence donc purement historiques. Il me semble que sur les propositions à faire pour le très proche avenir, nos positions là se resserrent.
Merci. Alors, il y a une personne tout à l'heure qui voulait intervenir mais qui ne s'est pas manifestée depuis. Donc là, je vais moi-même vous poser une question. Donc c'est moi qui la formule et qui la pose. Donc vous avez parlé, je crois, à la fin de la conférence que vous avez faite à Rennes, donc sur l'ésotérisme révolutionnaire. Vous aviez donc parlé en concluant, vous aviez donc dit en concluant sur la fin de cycle que nous vivions tous, la fin donc du Kali Yuga. Vous aviez dit qu'il faudrait une mutation anthropologique à l'être humain qui permette de passer à un âge nouveau, celui de la parousie sans doute, et de refermer le cycle. Alors j'aimerais bien que comment dire, vous expliquiez un petit peu la chose. Voilà, merci.
Alors, là aussi, pour prévenir toute critique, enfin, toutes les critiques sont bonnes à prendre, hein, mais toute critique un peu mal intentionnée, si vous voulez, cette mutation n'est pas une condition, bien sûr, pour voir advenir ce royaume eurasien, mais à mon sens, il y aura une conséquence. Je m'explique. Si vous voulez, à chaque nouvelle, pas chaque quand même, mais à chaque grande étape de l'histoire de l'humanité, depuis 450 000 ans, chose que si je me souviens bien, j'ai présenté au début, cette fois-ci, de ma conférence à Rennes. Hein, pour reprendre une terminologie hindoue, chak manvantara, puisque je rappelle qu'un manvantara donc, dure à peu près 64 800 ans, et que suivant les données traditionnalistes, nous en sommes au septième. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Mais enfin, à chaque nouveau grand changement, vous avez, pour le peu que l'on en sait, un nouvel Homo sapiens sapiens, hein, c'est-à-dire une nouvelle mutation. J'emploie exprès, bien sûr, le mot mutation, parce que, comme vous le savez, je ne suis pas évolutionniste. Je pense que lorsqu'il y a une mutation humaine, elle se prouve, elle se... Je vais l'expliquer sur deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est purement matérialiste, qui est, comme vous le savez, donc une mutation génétique. D'ailleurs, c'était une proposition donnée par quelques scientifiques au début du darwinisme. Un certain Devry était parti en opposition totale à Darwin sur cette solution-là, c'est-à-dire qu'il expliquait que le changement, si vous voulez, entre les espèces humaines se faisait de manière abrupte. Et on peut expliquer ceci également de manière spirituelle ou religieuse, même dans le cadre strictement catholique, puisque, vous savez, le début de la Genèse est si riche. Je vous recommande vraiment de relire, bien sûr, toute la Genèse, mais vous relisez les six premiers chapitres, et vous avez ici un condensé, un raccourci de ce que je suis en train de vous parler. Parce que si vous vous souvenez bien de la Genèse, vous avez deux Adam et Ève. Hein. L'histoire est racontée deux fois. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un étagement de l'histoire de l'humanité. Alors deux fois, et pourquoi pas sept fois? Eh bien sûr, à mesure que l'histoire humaine avance, la Genèse ayant été écrite, semble-t-il, il y a 1400, en moins 1400, Moïse a rédigé ce qui le concernait plus directement, ou plutôt ce qu'il comprenait le plus directement de son propre point de vue. Donc, ce n'est pas la Genèse n'est pas un traité de la tradition. Mais enfin, on voit que pour passer d'un homme à l'autre, que fait Dieu? Il lui souffle dans les narines. Voilà ce que sur un strict plan catholique, on peut comprendre par l'intervention du Saint-Esprit, hein, le pneuma, pour prendre des termes un petit peu johanniques. Voilà. Donc, lorsque je dis, si vous voulez, qu'il y aura certainement une mutation après le royaume eurasien, pourquoi? Parce que politiquement, si je me cantonne à la politique, ce royaume eurasien qui est une structure politique, vous l'avez bien compris, enfin plutôt une structure métapolitique, où le social est soumis au politique, lequel est soumis à l'esthétique, laquelle est soumise à la spiritualité, eh bien ce monde-là, est là pour favoriser la parousie. Même Nicolas Berdiev, qui était un très grand écrivain russe de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui a analysé, si vous voulez, l'avènement du communisme de manière absolument flamboyante, l'écriture de flamboyante l'est, l'écriture de Berdiev est flamboyante comme l'est la fin de l'art gothique. Hein. Donc Nicolas Berdiev disait que le communisme était une flambée de judaïsme sur la terre chrétienne. Parce que pour lui, il expliquait, Berdiev, que le communisme était en majorité pensé et réalisé par des juifs parce que ces gens-là étaient pressés de voir l'avènement du Messie. Or, pour Berdiev, on ne peut vivre à la fois en paix et en justice. Hein, la paix et la justice sont les deux symboles du monde traditionnaliste. On ne peut vivre à la fois en paix et en justice que à l'intérieur d'une transcendance. Berdiev disait que à l'intérieur de l'Église du Christ. Moi, je ne fais que décaler ces paroles-là dans le monde d'aujourd'hui où les religions sont prévues par le grand pouvoir pour être mêlées. Moi, je ne veux pas les mêler. Je veux que les religions gardent chacune leur identité propre, mais je reviens à mon histoire de chevalerie islamo-chrétienne. Pourquoi est-ce que ça marchera plus, si vous voulez, que cette affaire de communisme à la fin du 19e siècle prévue par Berdiaev, enfin décrite par Berdiaev, c'est parce que les chrétiens et les musulmans acceptent Jésus. Alors, je sais bien, évidemment, qu'ils n'en ont pas tous les deux du tout la même vision, la même explication, mais deux personnes, si vous voulez, deux spiritualités qui acceptent Jésus et qui le mettent chacune au centre de leur spiritualité, excusez-moi, mais je pense qu'elles sont faites pour s'entendre, surtout étant donné l'urgence des temps contemporains. Et pour finir avec Berdiaev, que je reprends, d'après la mémoire que j'ai de lui, d'une phrase qu'il avait écrite qui était absolument magnifique, il disait que contrairement au communisme qui avait été établi dans une espèce d'énervement, d'agitation pour créer le paradis sur Terre sans Dieu, eh bien, il disait que cela n'empêche pas que, une fois que le communisme sera mort, c'est là où on retrouve la fonction prophétique de l'écrivain, il disait qu'une fois que le communisme sera mort, ça n'empêche pas que les croyants en Christ, disait-il, s'unissent, quelles que soient leurs obédiences, pour favoriser un système politique qui favorisera le retour de la parousie. Donc vous voyez, il faut bien sentir la différence qu'il y a entre ce que je propose et le communisme un peu excité, enfin beaucoup excité, de la fin du 19e siècle. D'accord? Donc lorsque la parousie adviendra du fait que, si vous voulez, la planète sera en de bonnes prédispositions, à ce moment-là, il y aura un nouveau contact entre l'homme et Dieu, une nouvelle religion, comme le disait Joseph de Maistre, qui sera au catholicisme ce que celui-ci a été au judaïsme, d'accord? Donc là, on est tout à fait cohérent. Et un nouveau contact entre l'humanité et Dieu, ça veut dire un nouveau souffle, ok? C'est-à-dire que Dieu va à nouveau insuffler son pneuma dans les narines de l'homme. Donc nous assisterons certainement à une nouvelle mutation. Voilà, ça n'est que dans cet ordre des choses que je vois, que je parle, hein, bien sûr.
Merci beaucoup pour cette réponse complète. Alors, avant de laisser la parole à Valentin, donc ce sera avec Valentin l'une des dernières interventions. Si quelqu'un a encore une question précise, qu'il me la transmette. Alors, j'aimerais vous, comment dire, reprendre un petit peu sur cette idée de mutation. Alors, effectivement, il y aurait deux choses dans cette intervention que j'aimerais bien que vous excitiez. Donc, il y a d'un côté, évidemment, il y a la question des sources que vous n'avez pas. Enfin, évidemment, vous avez cité des noms très précis, vous avez cité Jean Faure, bien sûr, qui s'est d'ailleurs posé cette question du transformisme, notamment dans le livre sur l'humanité adamique et le cycle de l'humanité adamique de 1973. Il y a un chapitre effectivement sur Lamarck, Darwin, etc., sur la mutation qu'on appelle génétique. Voilà, donc j'aimerais à un moment donné que vous précisiez d'autres sources, notamment sur effectivement sur ce temps long là, sur ce temps long, parce qu'effectivement on parlait parfois de millénaires hein, qui sont parfois de 250 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui paraît être là un petit peu plus complexe, parce que j'écoutais récemment une émission avec Jean Audry, hein, très connu Jean Audry, puisqu'il avait écrit ce livre ou ses livres au pluriel sur les Indo-Européens, et qui lui réinsistait systématiquement, hein, Jean Audry qui est linguiste, grammairien de formation, qui réinsistait sur la difficulté qu'il y a comment dire, à reconstituer les traces, et notamment par exemple du monde celte, alors que par ailleurs, dans d'autres milieux, par exemple les milieux iraniens, etc., il y a beaucoup plus de facilité à reconstituer les choses. Et justement, donc Audry est quand même quelqu'un d'extrêmement prudent qui rappelle sans cesse la difficulté qu'il a eu à rassembler les choses. Et parfois, je trouve votre ton assez affirmatif, mais d'ailleurs, c'est très bien. Mais de ce point de vue-là, j'aimerais que vous précisiez un petit peu vos sources, notamment sur cette étude du temps extrêmement long. Notamment la période qui va au-delà de ces 30 000 ans qu'on attribue en général à l'humanité. 30 000 ans, c'est un chiffre qui revient souvent. Dominique Venner a écrit par exemple 30 000 ans. Voilà, merci.
Alors, moi je suis platonicien, c'est-à-dire que ma démarche est la suivante. Je crois au principe au singulier et au principe au pluriel quand ce principe-là s'incarne. Donc, déjà premièrement, je ne suis pas un empiriste. Hein, je ne pars pas des faits pour aboutir à des généralisations. Je parle de principes pour trouver ensuite des confirmations dans les faits. Ça, c'est une démarche platonicienne qui s'oppose presque trait pour trait à la démarche aristotélicienne qui a emprunt ensuite le monde scientifique durant, comme vous le savez, 2000 ans. et qui a donné de très bonnes choses par ailleurs, mais souvenez-vous, parce que je sais que, que la démarche platonicienne, je sais très bien dans le monde contemporain à quel point elle peut paraître absurde, mais la démarche aristotélicienne l'est tout autant. Pourquoi? Parce que, et je rappelle que je suis un scientifique, hein, donc enfin, je connais un tout petit peu ces choses-là, mais voilà. Un aristotélicien, qui s'ignore même, tel que l'était Descartes par exemple, qui continuait, entre autres cochoncetés, à nier l'existence du vide, Descartes qui est un des êtres les plus malfaisants de ces dernières centaines d'années, eh bien, c'est une démarche qui consiste à mettre ses sens, l'univers sensoriel, au centre de tout. Hein, c'est ce qui fait dire à certains faux scientifiques, par exemple, qu'il n'y a pas de science hors de la mesure. Ça, c'est totalement et intégralement faux, puisque la science la plus noble, c'est celle, par exemple, de la géométrie des formes. Tous les enfants qui sont passés par là au collège s'en souviennent peut-être, parce que c'est une science sans mesure. La science de la mesure, c'est la science qui se contente de la quantité. Alors, je vous l'ai déjà recommandé tout à l'heure, je vous le recommande encore une fois, lisez Le règne de la quantité de René Guénon. Je l'ai sous la main ici, mais je ne vais pas vous faire de lecture parce que ce n'est pas le lieu de le faire. Je pense d'ailleurs que je vais le faire sur Internet prochainement. Mais il répond très précisément à votre question. C'est-à-dire, pour en venir à Jean Audry, vraiment, Guénon parle de ça de manière très très claire. Je vais essayer de vous redire ce qu'il dit bien mieux que moi. Il vous dit que plus l'homme vieillit, plus l'homme avance vers le trou final, plus il a oublié, plus il rentre dans une phase d'oubli de l'ère primordiale, c'est-à-dire du souffle primordial dont je parlais tout à l'heure. Et il y a plusieurs souffles primordiaux. Donc même le premier souffle primordial, celui d'Adam et Ève cosigné dans la Bible, on l'a oublié, bien sûr, puisqu'on est de plus en plus mauvais. On est de plus en plus soumis à la dissolution générale de sa propre individualité. Eh bien, l'oubli des principes premiers qui animaient nos ancêtres, dans cet ordre des choses-là, est tout à fait normal. Et il est normal qu'un chercheur, qu'un paléoanthropologue, je respecte tout à fait Jean Audry, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, mais il est normal qu'un paléoanthropologue, ou même qu'un historien, possède des limites, puisque il est, si vous voulez, borné par sa méthode même. Hein. C'est exactement comme si vous demandiez à un marxiste, si vous voulez, de me prouver, par exemple, que la fonction du roi était, comme je l'ai dit tout à l'heure, de conserver le principe premier au sein d'une société. Non, pour un marxiste, la fonction du roi, c'est simplement de gérer les échanges d'argent entre les communautés et les échanges de dons. Voilà, ça c'est ce que va dire le marxiste. Le marxiste est incapable, vous le comprenez bien avec ses propres outils, de me dire que le roi n'est pas né pour superviser les échanges de dons, mais est né pour conserver le principe de la tradition dans sa. Voilà, dans sa. C'est exactement comme si un cuisinier tentait de mettre en équation, ou un physicien, je ne sais pas, tentait de mettre en équation le goût de tel aliment. Hein. Il y a des choses qui. Alors, je ne tombe pas dans le piège du rationnel et de l'irrationnel, ça c'est un piège. Le rationnel est certes opposé à l'irrationnel, c'est pour ça que vous avez des gens comme Bergson au début du XXe siècle qui se sont opposés au rationalisme et qui en s'opposant au rationalisme, lui ont opposé l'irrationalisme, qui est une chose encore moins noble que le rationalisme, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que l'irrationalisme fait appel à l'instinct, aux tripes, au bas-ventre, donc c'est encore moins noble que la raison. Non, c'est au suprarationnel qu'il faut s'intéresser, c'est-à-dire la synthèse disjonctive des deux. Et donc, il est tout à fait normal qu'un historien vous dise qu'avec les outils qui lui sont propres, il ne peut pas remonter à, je ne sais pas, 30 000 ans, 40 000 ans, etc. Moi, tout ce que je vous dis se trouve, je vous cite trois auteurs, hein, à la fois dans Platon, hein, dans René Guénon et dans Jean Faure, qui, lesquels eux-mêmes citent tout un tas d'autres écrivains ou intellectuels qui justifient ceci. Alors, pourquoi moi j'arrive à donner des dates aussi précises? Vous me donnez l'occasion de revenir là-dessus, et c'est très bien, même si je l'ai déjà un peu fait tout à l'heure. Les dates, moi, que je donne, ce sont, comment dire, des dates canoniques. Elles ne sont pas précises, si vous voulez. Ce sont des dates qui partent de l'ère précessionnelle de 2160 ans environ, et ces 2160 ans sont la durée de précession équinoxiale pour une constellation. Donc à partir de ce moment-là, si vous basez, comme Jean Faure l'a fait, comme d'autres gens, comme Paul Lecour l'ont fait, comme d'autres gens dans d'autres pays, Douguin l'a fait, si vous basez sur cette brique élémentaire et sur la tétractice pythagoricienne 4-3-2-1 pour bâtir l'histoire de l'humanité, d'accord? On peut faire autre chose. Moi, franchement, si quelqu'un propose une autre méthode, moi, je suis dans la dialectique constructive. Hein. Moi, j'écoute, il n'y a aucun problème. Mais il se trouve que les dates qui ressortent de cette méthode-là que je vous donne en utilisant des chiffres, basés, je répète, sur la tétractice pythagoricienne et sur la mesure élémentaire de 2160 ans, permettent, si l'on tient compte des sept Manvantara, enfin, si l'on tient compte du fait que l'on vit dans le septième Manvantara, comme le dit la tradition hindoue, permettent de remonter donc à 450 000 ans. Et moi, ce que je constate juste, ce que je ne fais que constater, c'est que à chaque date importante dont je vous ai qui marque par exemple le début ou la fin d'un Manvantara, eh bien, si vous regardez l'histoire en gros sur laquelle tombent d'accord pas mal de gens, de paléoanthropologues, ça correspond à une date avec laquelle ils sont tous d'accord. 450 000 ans, c'est-à-dire pour un traditionaliste, on ne peut pas remonter plus vieux, c'est donc le premier homme. Que nous dit la paléoanthropologie? C'est le paléolithique inférieur, 450 000 ans, c'est l'homo heidelbergensis, c'est-à-dire l'ancêtre commun de l'homme moderne et de l'homme de Néandertal. Et vous avez à ce moment-là à la fois la naissance du feu et du langage. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Il se trouve, moi, que je trouve cette conjonction absolument merveilleuse. Je ne dis pas que c'est le chiffre scientifique donné par le paléanthropologue qui me fait advenir à cette pensée traditionnaliste-là. C'est la pensée globale traditionnaliste basée sur le cycle qui ensuite se trouve appuyée par des chiffres très simples et lesquels se trouvent ensuite confirmés par les seules données que l'on possède. Hein, je donne un autre exemple, je ne sais pas moi. En moins 257 000, c'est-à-dire le quatrième Manvantara, eh bien, nous avons l'irruption du Néandertalien en Eurasie. C'est le début du quatrième Manvantara, donc une mutation, c'est le paléolithique moyen, une mutation de l'espèce humaine. Moins 200 000, cinquième Manvantara, irruption de l'homme moderne en Afrique. Voilà, une nouvelle mutation. Vous voyez, donc ma démarche est platonicienne. Hein. Je vais du principe. À l'observation.
Voilà, bah merci de cette réponse très très complète. Je pourrais vous parler en privé parce que ce serait un peu long à expliquer la vision de l'évolution humaine par Jean Gauthier, mais enfin bon. Peut-être que bah, dans 2 semaines, d'ailleurs, Cyril Cozins fera une conférence sur le docteur Jean Gauthier, peut-être qu'il abordera cet aspect de l'évolution anthropologique. Donc, il y a une question sur votre livre à paraître, et par ailleurs, bah, comme tous les intervenants ont un temps de parole limité, là, il y a une personne qui va intervenir, Valentin, donc s'il souhaite parler rapidement, je laisserai la parole. Sinon, non. Et donc la question, c'est autre question donc sur votre livre qui est à paraître, semble-t-il.
Oui, je vous remercie de me poser cette question. Alors en fait, je faisais partie d'une revue littéraire qui s'appelait Cancer dans les années 2000, qui a fait il me semble que ça a fait 8 numéros. Je resitue un petit peu, hein, puisque j'en suis à parler de moi. Je parle de mes antécédents littéraires, si vous voulez. Ça permettra de mieux circonscrire quel est mon projet actuel. Donc, c'était une revue fort bien menée, pour ma part, dans laquelle déjà on faisait écrire, par exemple, Alain Soral. Il a écrit quelques textes chez nous, des gens très disparates, hein, puisqu'il y en avait aussi bien Jean-Louis Coste que Maurice Dantec, à l'époque où il écrivait encore, ou enfin, comment dire, où il se contentait encore d'écrire des polars, et puis Marc-Édouard Nabe. Donc la revue a explosé parce qu'il y avait trop de tensions. Mais on avait déjà sorti trois livres collectifs que je vous recommande chaudement, hein. Le premier a été publié aux éditions L'Âge d'Homme. Il s'appelait Tête Turque. Le deuxième a été publié chez Fayard aux éditions Mille et Une Nuits, qui s'appelait au contraire Gueule d'amour, où on faisait plutôt des élégies de personnages et de choses qui nous plaisaient. Et donc le troisième était très proche de Marquis de Warna, puisque c'était en fait un complément à son roman qui s'appelait Alain Zanini. J'écris un roman depuis longtemps. Ça sera un roman que j'espère vraiment terminer pour cette année. Que dire dessus? Vous savez, c'est toujours délicat de parler d'un roman en cours. En tout cas, ça sera pas un roman idéologique. Vraiment, je suis en dehors de toute forme de militantisme et d'idéologie possible. Moi, je répète ce que je dis à chacune quasiment de mes interventions. Ce qui m'a ouvert à la vérité, c'est la littérature, hein. C'est-à-dire que c'est aussi bien Mishima que Edgar Poe, que Rabelais et que Antonin Artaud ou Rimbaud qui m'ont fait comprendre, si vous voulez, la dynamique des principes platoniciens, hein, pour être très très clair. Moi, je lis très sérieusement la littérature et pour moi, Antonin Artaud, par exemple, est vraiment le prophète qui a dit en des termes les plus clairs possibles, qui a prédit l'avènement de la future mutation humaine dont je parlais tout à l'heure, et qui s'appellera, on n'a pas le temps d'en parler, mais l'anarchiste solaire. Voilà. Donc pour moi, la littérature, c'est quelque chose de plus que sérieux. En tout cas, je le lis sérieusement de la même manière que quand j'étais enfant, je jouais au dé. Donc ça sera un roman, on va dire, littéraire. Et puis, je prévois quand même d'écrire on va dire, un traité ou un essai qui résumera, je pense, qui condensera et qui ouvrira des chemins sur, on va dire, mes propositions et sur mes pensées que j'ai tenté de développer en partie ce soir.
Très bien, merci. Je crois que on va aller vers la fin. On arrive à 2 h 15 de conférence. En plus, on va terminer sur une question plus personnelle sur vos projets. Donc, je pense qu'on peut arrêter là, à moins qu'une dernière personne veuille se manifester. Je crois que ce ne sera pas le cas. Donc, en tout cas, merci beaucoup de cette longue intervention et d'avoir répondu patiemment à toutes les questions, de façon à chaque fois très complète.
Moi, vraiment, je vous remercie. Et puis, bah, de la même manière que Franck Abed la semaine dernière, je ne peux que être admiratif devant la qualité des questions posées. C'est dit sans flagornerie aucune, puisque j'en ai absolument aucun besoin. Mais c'est des questions qui ont permis de m'expliquer sur des choses, effectivement, qui sont un peu parfois tendancieuses, puisque, vous savez, le domaine du spirituel, c'est le domaine le plus. Comment dire, le plus simple et le plus complexe, parce que c'est un domaine qui peut très vite déraper. Lorsqu'on parle d'ésotérisme, on peut très très vite raconter des choses qui nous font passer de l'autre côté du miroir, hein. Et moi, j'ai rencontré trop de gens qui m'ont irrité, des ésotéristes qui racontaient que Marie-Madeleine dormait dans l'église de Rennes-le-Château, que le père de Mérovée, qui s'appellerait Glaudion, aurait copulé avec un monstre marin, etc. Vous connaissez tous ces ésotérismes-là qui me rendent fou, qui m'irritent au plus haut point. Et lorsque j'ai rencontré, par l'intermédiaire d'un peintre marseillais de premier rang qui s'appelle Laurent Pellequer, lorsque j'ai vu qu'il existait un ésotérisme de haute teneur et très beau et très juste, j'en ai pleuré de joie et j'essaye tant bien que mal de me mettre à son service et d'en apprendre le plus possible chaque jour en essayant de ne pas tomber dans le piège le plus terrible quand on s'intéresse à ça, à savoir la vanité ou l'orgueil de dire, vous voyez, je suis le premier à avoir découvert ça. Il faut faire très très attention à ce discours, à ce genre de discours, parce que en termes d'ésotérisme, on ne découvre jamais rien. Tout est déjà inscrit. Il suffit de savoir soulever le voile. Voilà, je vous remercie encore.
Merci Laurent James. Juste une petite question. En fait, c'est pas moi. C'est voilà, Valentin, il voulait poser une question. Moi, je lui demande simplement d'être un peu court, mais juste une question qui pouvait être intéressante. Donc, vas-y, pour terminer.
Bah, disons que, enfin déjà bonsoir Laurent. J'ai écouté attentivement ce que tu nous as dit et ce qui m'a intéressé, c'est en particulier ce dont tu nous parles en termes de possibilité d'union entre deux traditions qui sont l'islam et le christianisme. Et moi, je vais te poser une question, mais elle appellera fatalement un dialogue. Je ne pense pas qu'on pourra développer beaucoup. Guénon insiste énormément dans toute son œuvre sur la nécessité de la transmission initiatique et sur l'existence de centres initiatiques que tu as évoqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, l'initiation pour Guénon, elle est reliée, elle est même intrinsèquement dépendante de la régularité et de l'attachement à un centre initiatique. Alors, si tu veux, quand tu expliques que tu vois certaines convergences, certaines possibilités de convergence entre le christianisme et l'islam, notamment dans le fait de reconnaître le Christ, dans la pensée de Guénon, il y a quand même quelque chose qui me semble s'opposer à ça, qui est que Guénon, qui a exploré toutes les possibilités initiatiques de l'Occident, il a creusé la maçonnerie, il a contribué à créer l'ordre martiniste. Il a également, bon, au début, beaucoup exploré le catholicisme. Et il est arrivé à la conclusion, et bon, c'est quelque chose qui ressort de sa correspondance, qu'en Occident, finalement, nous étions orphelins et qu'il n'y avait plus de centre initiatique fonctionnel. Donc, il parle finalement assez peu d'économie spirituelle, et c'est là où ça devient un petit peu gênant. Mais il est finalement assez conforme à ce que dit la tradition islamique d'elle-même, à savoir que la tradition islamique se voit comme la forme ultime de l'orthodoxie traditionnelle pour notre cycle actuel, et elle voit les autres formes traditionnelles comme étant finalement dépourvues aujourd'hui de caractère opératif. Donc ma question c'est, penses-tu Attaches-tu, toi, de l'importance à ce concept d'initiation qui est lié à l'idée de transmission? Et penses-tu que dans le christianisme, toutes tendances confondues, aujourd'hui, bien qu'évidemment le christianisme très représenté soit le majoritaire, soit le christianisme paulinien, il y a encore des possibilités initiatiques?
Bien, je vous remercie pour cette question, très 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 ouverte. Et effectivement, comme tu l'as dit, sur laquelle on pourrait discuter pendant au moins 2 heures. D'ailleurs, on pourrait même y consacrer un colloque d'une semaine. C'est une question très riche. Alors, revenons à Guénon. Je vais répondre en 2 points. D'abord le Guénon, d'abord Guénon, la trajectoire, et puis après la possibilité d'une tradition chez nous. Guénon, et encore il est mort avant Vatican II, Guénon considérait effectivement qu'il n'y avait plus de traces d'initiation possible en Occident, et il s'est donc converti à l'islam, un certain islam malékite, il me semble, pour des raisons qui sont encore pas tout à fait claires, hein, de toute façon, parce que là, alors, je me défausse pas en disant que ça relève de sa trajectoire privée et personnelle, mais le fait qu'il ne s'en ait jamais expliqué prouve quand même qu'il y a là une démarche authentiquement personnelle qui au fond ne regarde que lui. Vous savez, Guénon était, enfin, tous ses écrits le prouvent, était au moins autant attiré par l'hindouisme. Certains signes laissent indiquer qu'il a tenté, au moins à un moment donné, de se convertir à l'hindouisme. Ce qui aurait été beaucoup plus difficile pour lui, pour des questions de langue, et peut-être d'ethnie. Ça lui a été beaucoup plus simple, entre guillemets, bien sûr, hein, de se convertir à l'islam qu'à l'hindouisme, parce qu'il maîtrisait parfaitement la langue arabe. Il est devenu cheikh très rapidement en Égypte, sous le nom donc du cher Wahid Yahya. Et je possède un ouvrage ici qui donne quelques-uns de ses textes écrits donc en langue arabe vers la fin de sa vie, qui sont absolument prodigieux. Le problème du christianisme, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est que effectivement, c'est une religion dont l'ésotérisme s'est de plus en plus appauvri et dont l'exotérisme s'est de plus en plus appauvri également en même temps. Vatican II s'est appauvri, enfin a appauvri l'Église, non pas parce que l'Église a reconnu les autres religions, mais parce que en le faisant, l'Église s'est affaiblie elle-même. On peut très bien, et c'est ce que je propose d'ailleurs aujourd'hui, on peut très bien s'allier avec d'autres religions tout en confortant son identité. Hein, c'est pour ça que je vous reprends un peu sur un terme quand même. J'évite d'utiliser le terme convergence. C'est une alliance entre musulmans et chrétiens que je propose. Ce n'est pas une convergence. Hein. C'est bien une alliance entre guerriers qui savent qui ils sont et qui se mettent ensemble pour un moment donné. Et peut-être parce que dans certains endroits de l'Eurasie, ils habitent dans la même région, hein, ce qui n'est pas un argument mineur, quoi. Chose qui existait beaucoup moins à l'époque de Guénon. Voilà, et donc on ne pourra rien trouver de plus efficace, parce qu'il faut parler en termes d'efficacité pour renverser la bête. Maintenant, aujourd'hui, la donne a changé par rapport à l'époque de Guénon. Je suis prêt à vous prouver que l'Église aujourd'hui est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était à l'époque de René Guénon. Je parle de l'Église catholique. Tous ceux qui prétendent que les églises sont vides aujourd'hui sont ceux qui n'y mettent jamais les pieds. Ça, c'est très clair. La chose est entendue. J'en ai vraiment marre d'entendre tout le temps des gens, y compris de nos mouvements, nous dire que les églises sont vides. Je veux dire, les églises des campagnes sont peut-être vides, sont sûrement vides, parce que justement, il y a eu une désertification des campagnes. Avant la désertification des campagnes, il y a eu une paupérisation spirituelle des campagnes, et les églises urbaines se sont vidées après les églises, c'est l'époque des Anglois, hein, après les églises de campagne. Aujourd'hui, nous avons, et Bernanos l'a prédit, nous avons aujourd'hui une église des villes qui est de plus en plus armée, d'accord? Allez dans n'importe quelle église, j'étais encore il n'y a pas longtemps dans l'église du Saint-Esprit, dans le 12e arrondissement de Paris, à côté de la Porte Dorée. C'est peut-être la plus belle église contemporaine avec des fresques de Maurice Denis. Voilà une autre avant-garde du début du 20e siècle dont j'ai oublié de parler. Maurice Denis, les Nabis, voilà. Ben, allez-y le dimanche. Les messes sont pleines. Hein. Allez, si vous passez un jour par Marseille, allez dans l'église Notre-Dame des Réformés, qui n'a rien de protestant malgré son nom. Hein. Voilà. Où vous avez chaque dimanche le père Zanetti, il me semble, qui fait une messe splendide devant une église pleine, devant plus de 1000 personnes. Je veux dire, il n'y a aucun militant politique de notre bord qui n'a parlé à 1000 personnes en même temps. Il a fait une homélie contre l'argent. Je pense que ça n'existait pas à l'époque de Guénon, où l'Église était encore, si vous voulez, en partie du côté du capitalisme entrepreneurial, c'est-à-dire en partie du côté des puissants contre, on va dire, le monde ouvrier, pour aller vite. Hein. Aujourd'hui, encore une fois, Pasolini, Drieux La Rochelle, Guénon ont décrit le changement radical dont je vous parle de façon très différente, c'est-à-dire que le capitalisme, après avoir été entrepreneurial, est devenu financier et en se faisant, s'est opposé totalement à l'Église. Et aujourd'hui que l'Église se trouve dans sa structure liturgique même attaquée par les puissants, elle est tout autre. Elle est toute différente. Hein, quand je vois un prêtre qui fait une homélie d'une demi-heure, comme je l'ai vu à Marseille, contre l'argent, d'accord, et qui vous dit, si vous sortez de la messe, si en sortant de la messe, vous ne vendez pas les actions que vous possédez, c'est inutile de revenir, hein, et qui la semaine d'après cite Brasillach, je veux dire, si vous continuez à pisser sur l'église, c'est que vous n'avez rien compris, c'est que vous êtes un irréductible connard. Là, il faut quand même être bien clair là-dessus. Donc l'Église aujourd'hui offre des possibilités de renouveau spirituel intégral, et entre autres parce qu'il y a de plus en plus de gens dans l'Église qui acceptent de refaire fleurir la tradition. Et qu'est-ce que la tradition, pour être très précis, je vais peut-être finir là-dessus, j'aurais pu en parler pendant 2 heures, qu'est-ce que la tradition dans l'Église catholique? C'est l'alliance entre Sainte Marie-Madeleine, la Vierge Marie et Saint Jean qui ont vécu pendant 10 ans à Éphèse, d'accord? Vous avez Sainte Marie qui a commencé à faire ses apparitions eschatologiques à partir de 1830, j'en parlais tout à l'heure, elle n'a pas fait ses prophéties pour rien. Ce que la Vierge Marie a expliqué de la Salette à Medjugorje se réalise aujourd'hui. Lisez de Saint Jean, lisez tout de Saint Jean. Ce que vous avez dans le Nouveau Testament, mais lisez également les manuscrits de Nag Hammadi, lisez le livre des secrets de Jean, et lisez l'évangile de Marie-Madeleine, et vous comprendrez très précisément ce que je veux dire. Donc l'Église, tout va au Christ aujourd'hui, tout retourne au Christ, l'Église est là plus vivante que jamais, rendez-vous aux messes, rendez-vous, comprenez sur place que les églises sont loin d'être vides, se remplissent de plus en plus, et que c'est peut-être là que se joue notre avenir politique le plus direct.
Très bien, la conférence s'arrête sur cette belle conclusion, sur cette belle réponse. Donc on clôture cette belle soirée en remerciant tout le monde, à la fois les auditeurs, ceux qui ont donc posé des questions, bien sûr, et évidemment le conférencier une nouvelle fois.
Il n'y a pas d'actualité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si vous arrivez à montrer le carré noir sur fond blanc de Malevitch, qui est en fait la plus directe des actualités à montrer en relation avec cette conférence, je pense. Voilà, merci.